Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de venir aujourd'hui assister au quatrième enseignement que m'a donné le Lama Sonam Dorje. Je pense que la plupart d'entre vous étiez là lors du dernier enseignement, le 17 juin. Je pense que vous avez dû aussi savoir qu'il y a eu un incendie justement le soir même de l'enseignement. Et c'est pour cette raison que cet enseignement est donné dans ce chapiteau, parce que la pagode est inaccessible. C'est trop dangereux de rentrer, parce que c'est justement au-dessus, au premier étage, qu'il y a eu l'incendie. Le rez-de-chaussée, pas de dégâts, mais c'est quand même dangereux. Voilà. J'espère que vous êtes à l'aise. C'est un petit peu en pente. Alors, ne relevez pas vos jambes, parce que vous risquez de partir en arrière. Ce qui change un petit peu, c'est que habituellement, après l'enseignement, il y a un repas végétarien qui est organisé. Mais vu que les cuisines sont inaccessibles, il n'y a plus de repas organisés. Alors pour les personnes qui nous ont envoyé le chèque, j'ai eu le chèque d'une dame, Madame Maillard. Je ne sais pas si vous êtes
des chèques.
Je remettrai le chèque à la personne. Sinon, il y a Madame Forestier. Je crois, je ne sais pas si elle est là. Vous avez reçu, je vous ai retourné votre chèque. Voilà. Le vénérable quand même souhaite qu'après l'enseignement, vous pouvez rester à côté. Il y aura du thé et du café avec des petits gâteaux offerts pour pas qu'on se quitte. Le prochain enseignement, je vous donne déjà la date, c'est le 28 octobre. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est samedi 28, c'est le dernier enseignement de l'année 2006. Et la prochaine fois, je vous donnerai le programme des futurs enseignements pour l'année 2007, parce que la main ne m'a pas encore communiqué les thèmes des prochains enseignements. Voilà. Juste pour information, les vénérables maintenant sont logés dans un appartement qui est attribué par la mairie de Saint-Pierre-des-Lions, juste en bas de la rue de Cusieux, vu que la pagode est inhabitable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, au niveau de la reconstruction de la pagode, on ne peut rien envisager. On attend l'indemnisation de l'assurance. Et on espère que pour le 28 octobre, il y ait l'installation d'une cabine. Parce que là, nous avons fait une demande d'un permis de construire pour pouvoir installer une cabine de 140 mètres carrés, toujours sur le parking, mais c'est un peu plus solide, c'est beaucoup plus grand, qui sera juste à côté. Là. Pour l'instant, on attend toujours la réponse. Alors peut-être que pour le 28 octobre, l'enseignement sera donné dans la cabine ou ici. Et pour la pagode, il faudra attendre un petit peu pour qu'elle soit construite. Voilà. Je laisse la parole à Michel qui va présenter Lama et puis le thème du jour. Je vais l'inviter Lama.
Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus très nombreux. Donc aujourd'hui, vous serez en présence de Lama Sonam Dorje. Certains le connaissent, beaucoup le connaissent, mais d'autres ne le connaissent pas aussi. Je vais faire une présentation sommaire. Lama Sonam Dorje est un lama occidental de la lignée Karma Kagyu du bouddhisme tibétain. Il est devenu moine en 1985. Il réside actuellement en Auvergne au centre monastique du Bost. C'est un centre où sont formés la plupart des lamas actuellement, tout du moins en France. Voilà. Au centre, le lama Sonam Dorje exerce de multiples responsabilités. Il assure, entre autres, le service funéraire, l'accompagnement des familles. Il participe à des rencontres avec d'autres religions. Il est membre du groupe La Baume, qui est un groupe qui a été créé à la suite du concile d'Assise en Italie en 1986. Donc c'est relativement récent. Il enseigne régulièrement dans les centres bouddhistes, dans les collèges, les lycées catholiques aussi. Intervient également dans des écoles d'infirmières. Voilà. Lama Sonam Dorje est un disciple de Lama Gendumo Poche, qui est fondateur du centre d'Akpo Kadyuling en Dordogne. C'est un institut qui d'ailleurs est ouvert au public et qui était également le fondateur du centre Kadyuling, donc le centre où réside actuellement Lama Sonam Dorje. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, karma et libre arbitre, nous avons eu la chance, les mois précédents, avec Lama Sonam Dorje, d'entendre les précieux enseignements après une introduction au bouddhisme qui a été notre première causerie. Lama nous a donné les instructions essentielles concernant le développement de la vie spirituelle, à savoir la précieuse existence humaine, à savoir la mort et l'impermanence, qui était la conférence du mois de juin dernier, donc avant les vacances. Et aujourd'hui, Lama Sonam nous parlera de la loi de causalité, ou loi du karma. Nous avons souvent l'impression de subir les événements, qu'ils soient heureux ou malheureux. Lama nous expliquera que ce que nous vivons aujourd'hui est le juste résultat de nos actions du passé, voire de vie passée. Le Bouddha enseigne que c'est à chaque instant que nous forgeons les causes de notre bonheur ou de notre souffrance. Ainsi, la connaissance de cette loi universelle nous apprend à mieux nous responsabiliser au quotidien, en sachant ce que nous devons faire et peut-être aussi ce que nous devons éviter de faire. Je laisse la parole à Lama Sonam Dorje. Merci à tous.
Merci Michel. Oh
tu n'as pas dit ce livre. Va la main, Carmen.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va, on va faire un sens.
Il faut le
voilà. Je crois qu'il faut le tenir droit pour que ça fonctionne. Il n'y a pas un truc qu'on peut visser. Non. Bon, ça va, si on ne touche pas. Il est en route là ?
Oui, je l'ai pas.
Vous m'entendez ou...
Non, il est tout près de moi.
Vous m'entendez ?
Non.
Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Non ? Et il n'était pas allumé. Voilà. Ça va là, hein ? C'est bon. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver là parmi vous aujourd'hui. Et je me disais à double titre. Tout d'abord, bien entendu, d'être là dans ce lieu que je commence à connaître un petit peu parmi mes amis occidentaux, mes amis vietnamiens, particulièrement le vénérable, qui est un ami. Mais aussi en souvenir quelque part de ma dernière visite, un fameux 17 juin, n'est-ce pas ? J'étais présent ce jour pour donner un enseignement sur l'impermanence et la mort. Et la pagode a brûlé dans la nuit d'après. Ça a été un choc pour tout le monde, bien entendu, pour moi y compris. Mais ce qui est assez curieux, c'est que une certaine réputation maintenant a été faite à mon égard. Et mes collègues me disent, mais oh, méfiez-vous, hein, n'invitez pas Lama Sonam Dorje pour enseigner sur l'impermanence, parce qu'il vous met tout de suite au cœur de la pratique. Bien évidemment, moi j'y suis pour rien. Si quelque chose a dû se faire et devait se faire de cette manière-là ici, eh bien tout simplement c'est par la volonté du Bouddha. Et certainement, c'était aussi une question de karma, puisque nous allons aborder ça aujourd'hui. Et finalement, c'est un peu la continuité de ce qui s'est passé ce fameux 17 juin. Pour moi, je pense qu'en même temps, il est important de soutenir ce lieu, tant dans son activité spirituelle que dans toutes les autres formes d'activité, parce que c'est un lieu pur, animé par des pensées pures, des motivations pures. Et si nous-mêmes nous sommes un peu sensibilisés par cette activité, je ne sais plus comment trop le tourner, voilà. Eh bien, ce serait bien donc de soutenir cela. On veut vraiment aider ce centre, parce que, vous savez, des lieux purs comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et quand il y en a un, eh bien, on a tout intérêt à le choyer pour que son activité puisse durer dans le temps et permettre à de nombreux êtres de pouvoir rencontrer l'enseignement du Bouddha et de pouvoir aussi le mettre en pratique. Alors oui, on va parler de karma. Karma, c'est un mot qu'on entend souvent, ou on a entendu ça très souvent dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même les Beatles chantaient Instant Karma, où il y avait quelque chose comme ça, et on se posait beaucoup de questions là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On parle de karma. Oh, c'est encore un truc asiatique qui nous vient de là-bas. C'est une mode, etc. Mais le karma, ça a un sens, c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui ne concerne pas uniquement les Asiatiques. Beaucoup pensent que c'est une invention des bouddhistes, que les bouddhistes ont amené ça chez nous ici en Occident et que finalement ça ne concerne qu'eux. Mais si on regarde bien de plus près, on va se rendre compte que finalement nous sommes tous soumis à cette même loi. Karma, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot sanskrit qui signifie action. Mais bien plus encore. Parce que lorsqu'il y a action, il y a réaction. Ben oui, je crois que ça a été d'ailleurs démontré par Einstein dans la loi d'interdépendance des phénomènes. Il a démontré ça mathématiquement. Mais là, bien entendu, c'est beaucoup plus profond encore, parce qu'il s'agit d'une loi spirituelle. Et pas simplement qu'une résonance, si on pourrait dire, physique. Lorsqu'il y a action, il y a réaction. Et cette loi de causalité, cette loi de cause à effet, est une loi universelle. Quelle que soit notre croyance, quelle que soit notre tradition spirituelle, quelle que soit notre race, le lieu où nous habitons, nous sommes tous soumis à cette loi. Donc, beaucoup malheureusement l'ignorent. Ce n'est pas enseigné dans nos écoles, bien hélas d'ailleurs. Et c'est peut-être très peu enseigné dans d'autres traditions spirituelles. Mais le bouddhisme a exploré cela d'une manière très précise. Et en même temps, ça fait partie même des bases, du fondement même de l'enseignement du Bouddha, du message du Bouddha. Il est dit dans la tradition bouddhiste que tant qu'on n'a pas intégré réellement en soi cette notion de causalité, cette notion de karma, on ne peut pas parcourir le chemin d'une manière saine et efficace vers la libération de la souffrance, vers l'éveil ultime d'un Bouddha. Le karma signifie que tout ce que nous pouvons accomplir à travers nos pensées, à travers nos paroles et les actions de notre corps, tout cela a une incidence, une réaction que son auteur lui-même aura à expérimenter, ou dans cette vie, ou dans une de nos vies futures, sous forme soit de bonheur ou soit de souffrance. Tout ce que nous créons comme action, comme pensée, comme parole, comme action positive, porteront leurs fruits à un moment ou à un autre sous forme de bonheur. Et ce bonheur sera expérimenté par celui-là même qui aura créé les causes. Inversement, si nous accomplissons des actes négatifs à travers nos pensées, nos paroles et nos actes, nous aurons, bien entendu, à en supporter aussi les conséquences dans cette vie ou dans une vie future, sous forme de souffrance. C'est la loi du boomerang. C'est une loi qui est universelle, qui est naturelle et qui s'adresse à tous. Que nous y croyons ou pas, ça ne change absolument rien. Nous sommes tous soumis à la même loi. Et d'ailleurs, il est cité des phrases dans les écrits bouddhistes, qui sont donc les retranscriptions des paroles du Bouddha lui-même ou des grands maîtres qui ont jalonné l'histoire du bouddhisme. Et certaines de ces paroles, je vais vous les citer. Il est dit dans le sutra des 100 karmas, les sutras sont les paroles mêmes du Bouddha, ce qu'on appelle les moyens discours du Bouddha. Il est dit, c'est la variété des karmas, c'est-à-dire des actions, qui crée la variété des êtres. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser quand même beaucoup de questions sur ce qui se passe dans ce monde. Moi, je me souviens à une époque, je me disais, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens dans ce monde qui soient heureux, à qui tout sourit dans la vie, tout se passe bien, et d'autres, c'est la galère permanente. Ce sont des souffrances à n'en plus finir, des expériences douloureuses. Comment se fait-il? Qui est-ce qui détermine cela? Alors, peut-être certaines traditions spirituelles diraient, eh bien, c'est Dieu qui l'a voulu comme cela. Personnellement, moi, ça ne me satisfait pas. J'ai du mal déjà à concevoir que quelqu'un soit responsable de ma vie et décide d'emblée si je dois être heureux ou malheureux en fonction de son bon pouvoir ou d'être puni pour quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Pour moi, c'est inconcevable. Bon, c'est mon avis personnel. Mais quand on parle, en effet, de cette loi de rétribution, ça ne doit donc pas être confondu avec une, comment on pourrait dire, une justice morale, une récompense ou encore une punition. Dans le sens où ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une puissance omnipotente, suprême, créatrice, aurait le droit de décider donc du bien et du mal de ce monde et de ce que doivent expérimenter chaque être et qui punit les êtres en fonction de ce qu'il a expérimenté. Cette conception-là, il est dit, de la justice divine est ambiguë et dangereuse car elle engendre plus de problèmes finalement pour nos sociétés que d'en résoudre. Et du point de vue de l'enseignement du Bouddha, bien sûr, ça, c'est complètement erroné, comme vision, comme compréhension des choses. Donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous tous? Qu'est-ce qui fait que nous avons une apparence physique différente, que nous naissons ou hommes ou femmes, que nous rencontrons des bonheurs différents ou des souffrances différentes, plus ou moins fortes, plus ou moins puissantes. Qu'est-ce qui fait que nous renaissons dans tel pays, dans telle famille, que nous rencontrons toutes sortes d'êtres dans notre vie plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui fait aussi que nous sommes en mesure de pouvoir aimer certaines personnes et de pouvoir détester d'autres personnes, peut-être des gens qui ne nous ont rien fait dans cette vie? Pourquoi avons-nous des tendances, à la fois positives ou négatives, peut-être différentes de celles de nos voisins, de celles de nos parents, peut-être même différentes aussi de celles de nos frères et nos sœurs? Pourtant, nous avons été élevés par les mêmes parents, nous avons eu la même éducation, et nous sommes complètement différents. entre frères et sœurs, certains tournent bien, d'autres tournent mal. Qu'est-ce qui fait tout ça ? Et dans le sutra du lotus blanc, autre parole donc du Bouddha, lotus blanc de la compassion, le Bouddha dit « L'univers est produit par le karma. C'est le karma qui le fait apparaître. Les êtres sont produits par le karma. C'est lui qui les différencie. » En effet, toutes les différences que nous avons, du point de vue physique, du point de vue mental, toutes les différences d'expérience que nous vivons dans cette vie, c'est le fruit de nos actes accomplis dans les vies passées. Le Bouddha l'explique de cette manière. Donc, si on veut essayer de trouver une responsabilité à nos souffrances, eh bien, il est inutile de chercher cette responsabilité à l'extérieur de nous-mêmes, de penser que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive, mais simplement voir que nous-mêmes, à travers nos pérégrinations passées, nous avons accompli des actes négatifs, des actes qui ont créé de la souffrance, de la discorde chez les êtres, toutes sortes d'actes qui ont pour résultat ce que nous vivons actuellement. Et c'est valable, bien entendu, pour l'inverse. Tous les bonheurs que nous rencontrons, toutes les facilités, qu'elles soient au niveau de notre intellect, au niveau de notre activité, de nos rencontres, de ce que nous pouvons réussir dans notre vie, c'est le fruit de ce que nous avons accompli dans les vies passées. Bien entendu, moi, lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça complètement et totalement révolutionnaire. Enfin, quelque chose qui a un sens et qui fait finalement que je suis totalement moi-même responsable de ma vie et personne d'autre est responsable de ma vie. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me réjouit profondément. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je suis le maître de ma vie. Et si je souhaite rencontrer le bonheur dans le futur, eh bien, il ne demeure qu'à moi-même de créer les causes de ce futur bonheur, ici et maintenant. Alors évidemment, on pourrait, là, bon, une heure et demie de temps, deux heures maximum de temps, parce que je vais vous laisser un petit peu la parole après, il est impossible, bien entendu, de rentrer en profondeur cet enseignement sur le karma, parce qu'il faudrait beaucoup plus de journées, des journées entières pour cela. Et quand bien même, on arriverait juste à cerner l'essentiel, mais du moins la vision générale de ce que veut dire le karma, mais pour en comprendre l'essence même, il est dit que seul un être totalement éveillé peut comprendre les tenants et les aboutissants du karma, parce que ça implique tellement de paramètres extrêmement subtils que pour nous, c'est complètement, bien sûr, inaccessible tant que nous sommes encore soumis à l'ignorance. Et c'est d'ailleurs à cause de cette ignorance et de ce qui découle de cette ignorance que nous sommes nous-mêmes d'ailleurs amenés à accomplir toutes sortes d'actes irraisonnés et qui créent, bien entendu, la souffrance que nous rencontrons dans notre vie. Qu'est-ce que le karma ? Le condensé de l'Abhidharma répond d'une autre manière. Il dit, l'Abhidharma, c'est la troisième forme d'enseignement donnée par le Bouddha, le troisième cycle d'enseignement qui concerne surtout la psychologie, etc., l'ésotérisme. Et il dit, le karma, c'est l'impulsion mentale et l'acte qui en résulte. Tout commence d'abord par le mental. On peut dire que finalement, l'activité de la parole et l'activité de notre corps, la mise en mouvement, l'action de notre corps, ces deux aspects-là ne sont que les serviteurs de notre mental. Si nous avons une pensée de colère ou de haine qui s'élève dans notre esprit, que nous saisissons cette pensée comme étant réelle, que nous nous identifions à elle, nous serons à ce moment-là amenés à avoir des paroles de colère et de haine et des actions qui vont nuire, bien entendu, à autrui. Donc tout démarre à partir de l'esprit, à partir de notre mental, de ce qui émerge de l'esprit. Le karma donc désigne l'impulsion mentale et son résultat. Et le karma, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fondement de tout l'enseignement du Bouddha. C'est ce qui fait que, en fonction de l'orientation que nous donnons à notre conscience et à notre esprit, nous nous retrouvons dans les conditions de naissance, de vie, plus ou moins souffrantes, plus ou moins heureuses, plus ou moins difficiles. Et les gens ordinaires, bien entendu, ne comprennent pas véritablement cela. Parce que s'ils savaient qu'ils sont eux-mêmes les propres créateurs de leur souffrance future, ils feraient peut-être plus attention à cela. Le savoir, c'est déjà une chose, mais ça ne suffit pas encore. Encore faut-il transformer nos tendances émotionnelles, transformer les causes mêmes de cette création de souffrance en nous. Et ce que nous rencontrons bien sûr dans cette vie et ce qui nous attend peut-être plus tard, et ce que nous avons vécu dans les vies passées. Alors, on ne saurait pas très bien discerner, pour certaines personnes, peut-être ce que veut dire un acte négatif. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, un acte est considéré négatif lorsqu'il crée de la souffrance chez autrui et chez nous-mêmes, en résultat. Il y a, on pourrait parler un petit peu, de pour donner une idée, on parle de trois actes produits par le corps, qui crée la souffrance. C'est par exemple supprimer la vie de quelqu'un, voler ou avoir une inconduite sexuelle. Quelqu'un qui viole par exemple, ou qui torture, ou qui, etc. On parle de quatre actes négatifs par la parole, qui concerne la parole. C'est le mensonge, la calomnie, les paroles blessantes, et les paroles futiles. Et en ce qui concerne l'esprit, il est dit qu'il y a trois formes d'actes ou de pensée, on pourrait dire, de tendance, la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Tant que nous ne sommes pas vigilants, nous-mêmes, que nous n'avons pas déjà connaissance de cette loi, que nous ne sommes pas vigilants au quotidien, eh bien, nous sommes emportés, nous sommes pris par ces tendances. Et nous n'en avons pas conscience, et nous créons de ce fait non seulement de la souffrance chez les autres, mais aussi nous créons les graines, les germes de notre propre souffrance que nous expérimenterons dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire le meurtre, quand on parle de prendre la vie des autres? C'est toujours à partir des émotions que ça se passe. Lorsqu'on tue un être humain, un animal, c'est soit par désir, soit par haine, ou soit par ignorance. On tue par désir certains êtres pour leur chair, pour pouvoir la manger, pour leur peau, ou simplement par jeu. La chasse, pour certains, c'est un sport. On tue des animaux par sport, pour le fun, comme on dit, de ce jeu. On tue aussi pour l'argent, ou pour se protéger. Se protéger soi-même, mais aussi protéger ses proches. On peut tuer par haine les gens qui, par exemple, nous détestent ou nous font concurrence. Et on tue par ignorance, peut-être aussi pour faire des offrandes, comme dans certaines traditions, on tue des animaux pour les offrandes à certains dieux ou certains cultes particuliers. Le Bouddha s'est beaucoup révolté aussi contre ça, parce que rappelez-vous que le Bouddha est né dans un contexte particulier de l'Inde il y a 2500 ans, où c'était la tradition védantiste qui était, le védisme qui était la religion de l'époque, qui était la plus ancienne religion qui ait connu notre planète, du moins de mémoire humaine. Mais certaines traditions, certaines sectes, certaines tendances de cette tradition-là, eh bien, tuer des animaux, sacrifier des animaux pour offrir le sang, pour offrir la chair à certains dieux, pour pouvoir avoir leur faveur, pour pouvoir avoir de l'aide ou quelques profits. Le Bouddha s'est beaucoup révolté contre cela à l'époque. Non pas pour préserver un certain ordre social, mais simplement dans la connaissance que cet acte-là allait créer, amener beaucoup de souffrance sur l'être qui l'a accompli lui-même, sans s'en rendre compte, par ignorance ou par vue fausse. Donc c'était par compassion que le Bouddha, bien sûr, a démontré ça. C'était pas dans l'idée d'imposer un certain ordre social ou moral, pas du tout. On parle aussi, là il est dit, la loi du karma se contente donc de décrire le fonctionnement de l'esprit ordinaire en mode duel et l'interaction permanente des deux pôles, sujet et objet. Donc sujet et objet, parce qu'on fonctionne toujours sur un mode duel dans notre monde. Il y a toujours nous, nous-mêmes, notre ego, moi, ma personne, séparé des autres, séparé du monde. Et entre ces deux pôles-là, il y a toujours une relation qui s'établit. Cette relation est soit attirante, ou soit, au contraire, c'est le rejet lui-même, ou la répulsion qui se manifeste. Et c'est à partir de là, bien entendu, à partir de cette dualité de notre esprit, que nous sommes amenés à avoir des comportements en relation avec ces deux pôles. Si c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, j'aurais tendance peut-être plus à être agréable, à être gentil avec, et si c'est quelque chose que je juge moi-même déplaisant, eh bien, je vais manifester du rejet, de la colère, de la haine, et peut-être jusqu'à détruire cette chose que je pense être déplaisante. Donc, l'individu crée son propre bonheur, ou sa propre souffrance, qui ne sont ni la récompense ni le châtiment d'un être supérieur, comme nous avons parlé tout à l'heure. Il est dit que ces actes négatifs, c'est vraiment très désagréable.
Si tu me fais comme ça,
si je le mets là, ça va me gêner. Je sais pas, vous entendez là,
vous te dirigez vers là.
Ouais. Il est dit que les actes négatifs que nous pouvons faire ont trois effets. On parle d'abord du plein effet, de l'effet qui est conforme à la cause et de l'effet conditionnant. C'est-à-dire que le plein effet du meurtre, par exemple, eh bien, ça va être de renaître dans l'un des mondes infernaux qui existe au-delà de notre conscience. Alors évidemment, pour nous occidentaux, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais dans la tradition bouddhiste, on explique bien que notre monde tel que nous le voyons ici, nous pensons peut-être que c'est le seul de notre univers, que nous sommes les seuls. D'ailleurs, l'orgueil de l'être humain, c'est un petit peu de penser ça, qu'il est seul au monde, seul au sein de l'univers, et qu'il n'y a que lui qui compte. Mais selon l'enseignement du Bouddha, bien entendu, c'est pas comme ça que ça se passe. Il existe une multitude de mondes, qui peuvent être tous semblables ou différents d'une autre, et dont la caractéristique est un poison qui est dominant et qui fait qu'on renaît dans ce monde-là si on a cultivé ce poison de l'esprit durant notre vie d'avant. Par exemple, ce qui caractérise notre monde humain, eh bien, c'est le désir-attachement. Si nous avons beaucoup cultivé ce désir dans nos vies passées, nous aurons tendance à renaître, à être attirés au moment de notre mort pour reprendre naissance dans ce monde-ci. Et il en va donc de même pour d'autres mondes. Et là, on parle donc des enfers. Et les enfers, être dans l'enfer, c'est être enfermé dans du fer. Donc ça veut dire que l'ego là, est tellement serré et tellement puissant qu'il n'y a pas d'autre place pour cela, que pour cela, donc, hein, pour autre chose que cela. Et le fait de tuer quelqu'un, bien entendu, c'est supprimer la vie, c'est quelque chose qui est très grave, extrêmement grave. Et si c'est animé par la haine, eh bien, la haine elle-même mènera à cette mauvaise renaissance dans un monde de souffrance terrible qu'on appelle les enfers. Bon, ça existe dans d'autres traditions spirituelles, on en parle aussi, mais peut-être pas tant en détail que dans la tradition bouddhiste. Mais c'est pas quelque chose pour faire peur aux gens, pour essayer de créer un climat, peut-être de... comment dirais-je, pour essayer d'avoir du pouvoir sur les gens, parce que je crois que beaucoup de prêtres maniaient un petit peu ça, souvent dans beaucoup de traditions aussi, comme moyen d'avoir du pouvoir sur les gens et d'avoir un contrôle sur eux. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la réalité. Bien que ce soit simplement qu'une projection de notre esprit, tout comme ce monde dans lequel nous sommes là en ce moment, nous le prenons pour réel, mais en fait, il a la même caractéristique que le rêve. Comme ce qu'on rêve la nuit, par exemple, c'est exactement pareil. Au moment de la mort, on va quitter ce monde, mais on se rendra compte finalement que c'était simplement qu'une projection de notre esprit. Et un Bouddha, c'est quelqu'un qui est sorti de toute cette projection-là. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui conditionne chacun de ces mondes, c'est une émotion dominante, une émotion perturbatrice dominante, que l'on aura cultivée en nous-mêmes comme tendance et qu'on aura exprimée à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Et là, il est donc dit que le plein effet, en effet, du meurtre est de renaître dans l'un de ces mondes de très très grande souffrance que sont les enfers. Et l'effet conforme à la cause est une vie courte et de nombreuses maladies lorsqu'on a repris naissance en tant qu'être humain. Eh bien oui! Souvent, on voit des gens qui meurent jeunes, des gens qui ont une vie courte, des personnes qui rencontrent toutes sortes de galères dans leur vie, de pertes, de pauvreté, etc. Eh bien, tout ça, c'est lié aussi à leurs actes. Et là, on dit, eh bien, en effet, que ça peut être le fait de rencontrer des maladies et des obstacles de cette manière-là. On a supprimé la vie à quelqu'un, on a créé de la souffrance chez les autres, et nous-mêmes, nous allons l'expérimenter de cette manière, sous une forme qui sera relative à la cause même de ce que nous aurons accompli. Et l'effet conditionnant, il est dit, c'est de renaître dans un lieu misérable, même si on a une naissance humaine, donc un lieu misérable, et de mauvais augure, c'est-à-dire où les choses ne seront pas très positives d'une certaine manière. C'est-à-dire que les gens risquent de manquer à ce moment-là de force, seront peut-être petits de taille, en naissant avec des maladies ou des handicaps, etc. Et il est dit, bien entendu, que l'acte le plus grave, selon le Bouddha, c'est de tuer son père ou sa mère, ou de tuer un saint ou un Bouddha. C'est l'acte le plus grave. Quand on parle du vol, par exemple, le Bouddha dit, c'est voler, c'est aussi prendre ce qui n'est pas donné. Il y a le vol par la force, le vol en cachette, le vol par tromperie, on veut tromper les autres. Le vol par la force consiste à s'emparer d'autorité, ce que nous convoitons, sans que la victime ne soit coupable de quoi que ce soit. Le vol en cachette, c'est de s'introduire par effraction dans une maison, par exemple, et y voler quelque chose sans être vu. Le vol par tromperie, c'est abuser des autres en utilisant, par exemple, des choses fausses. Par exemple, un commerçant qui va avoir une balance truquée à son avantage et qui va vendre de la marchandise en truquant les poids, par exemple. Hein, ça peut être ça, de fausses mesures. C'est tromper aussi sur la qualité d'un produit pour... ou d'utiliser d'autres subterfuges. Il existe évidemment beaucoup de formes pour cela. Je crois que l'être humain est très doué pour trouver toutes sortes de mécanismes dans ce sens-là. Et on dit que l'effet du vol est triple aussi. Le plein effet est de renaître comme Preta. Alors Preta, c'est un autre monde qui existe, une autre dimension, où les êtres vivent dans une pauvreté extraordinaire. Et on peut voir aussi dans notre monde des gens qui vivent comme ça. Des gens qui vivent dans des pays où la faim, la soif existent, où il n'y a rien, rien ne peut pousser, où la terre est aride, ils n'ont ni à boire ni à manger, etc. Et bien c'est relatif justement à ce monde qu'on appelle en sanskrit les prétas ou les esprits avides. Et l'effet conforme à la cause, donc, c'est la pauvreté. Lorsqu'on a repris naissance en tant qu'humain, ça peut se passer comme ça. Si on a beaucoup volé dans nos vies passées, on va se retrouver pauvre. Et même si on essaye de trouver du travail, on n'en trouvera jamais. Même si on essaye de gagner de l'argent, jamais on n'arrivera à en gagner. Et tout ça, c'est lié aux causes produites par le passé. Il est dit, l'effet conditionnant est de renaître dans un lieu où la grêle, par exemple, et le gel ne cessent de sévir. Et il est dit que le vol le plus grave, bien entendu, consiste à s'emparer des possessions de son guide spirituel ou d'un être éveillé. On parle d'une autre forme d'activité négative, comme on a vu tout à l'heure, on les a énumérées, c'est l'inconduite sexuelle. Bon, je ne vais pas vous donner de détails, bien entendu, vous les imaginez vous-même, en vous-même, je ne vais pas vous faire de dessin. Hein. Le mensonge. Oui, le mensonge. On distingue différentes sortes de mensonges. Ça peut être des mensonges qui font chuter quelqu'un, par exemple, de son engagement. Ça peut être un engagement spirituel ou autre. Le mensonge, il est dit, il est quelquefois utile à nous-mêmes, mais il est nuisible aux autres. Il y a le mensonge bénin qui ne profite ou ne nuit aussi à personne. Et le plein effet du mensonge, il est dit, c'est de renaître comme un animal. On crée les causes pour une renaissance animale. Et oui, en effet, on peut aussi renaître sous cette dimension-là, selon l'enseignement du Bouddha. Et regardons même dans notre monde, même sans aller jusque-là au moment de notre mort, il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Des humains dans ce monde qui se comportent comme des animaux. L'effet conforme à la cause est d'être souvent critiqué lorsqu'on a pris naissance sous une forme humaine. Eh bien oui, comme on a sans arrêt menti, essayer de tromper les autres par le mensonge, on sera toujours critiqué, sans cesse et sans cesse. Personne ne nous croira lorsqu'on dira quelque chose. Il est dit, l'effet conditionnant, vous allez peut-être rire, mais pourtant c'est une réalité, est d'avoir une mauvaise haleine dans ses vies, dans ses futures renaissances. Eh oui, quelqu'un qui a toujours menti peut se retrouver à avoir une mauvaise haleine. Mais quand le Bouddha le dit, il le dit sérieusement. Nous, on peut peut-être rire de cela, trouver ça un peu absurde. Et oui. Et le pire des mensonges consiste à dire quelque chose de faux pour diffamer un être éveillé, un être suprême, un Bouddha. ou encore mentir à son guide spirituel. On parle de la calomnie. Alors, je vous énumère tout ça pour que vous sachiez un peu ce que c'est que des choses négatives, hein, à travers corps, parole, esprit. Parce que souvent, on n'a pas l'idée de ce que c'est. Donc, je pose les bases, bien entendu, déjà pour que vous réfléchissiez à ça. Hein. On parle de la calomnie. Eh bien, la calomnie, c'est, qu'est-ce que c'est ? C'est tout propos qui crée la discorde chez les autres. Au lieu de les réunir, eh bien, ça les sépare. Il y a la calomnie brutale, qui consiste à brouiller deux amis en prononçant des paroles diffamatoires en leur présence. La calomnie sournoise, qui conduit au même résultat en recourant à des louanges hypocrites. Et la calomnie cachée. Le plein effet de la calomnie, il est dit, c'est de renaître, bien entendu, dans des mondes inférieurs, comme les enfers, où il y a énormément de souffrance. L'effet conforme à la cause est d'être séparé de ses amis. Si on a une vie humaine, eh bien, on n'arrivera jamais à garder des amis. Nous serons toujours séparés d'eux et nous serons toujours aussi nous-mêmes calomniés, forcément. Il est dit que l'effet conditionnant de la calomnie est de renaître dans un lieu au relief accidenté, où il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose, de faire de la culture, ou d'établir quelque chose, même de construire une maison. Il y aura des terrains mouvants, accidentés, ou sujets aux inondations, etc. Et il est dit que la pire des calomnies consiste à prononcer des paroles déplaisantes pour diviser la communauté de ceux qui sont engagés sur la voie de l'éveil, de ceux qui servent les autres, de ceux qui développent la pureté intérieure, c'est-à-dire les bodhisattvas. Quand on parle des paroles blessantes, qu'est-ce que ça veut dire, les paroles blessantes ? Souvent, nous avons des paroles blessantes sans nous en rendre compte. On ne sait pas vraiment les conséquences de cela. On s'imagine que pour nous, c'est insignifiant, c'est rien du tout, et pourtant. Il y a les paroles blessantes qui sont directes, qui consistent à dire ouvertement à quelqu'un, par exemple, ses défauts. Les paroles blessantes sournoises que l'on mêle à des propos frivoles ou à des plaisanteries. Les paroles blessantes indirectes proférées devant un ami ou un proche de celui que l'on veut offenser. C'est pareil. Le plein effet des paroles blessantes, eh bien, c'est de renaître dans une mauvaise condition après notre mort, dans un monde où règne beaucoup de souffrance. L'effet conforme à la cause, si on a une renaissance humaine, est d'entendre, lorsqu'on a repris donc naissance dans ce monde humain, toutes sortes de propos déplaisants à notre égard. L'effet conditionnant est de reprendre naissance sur une terre saumâtre ou aride, parmi des gens malfaisants. Et les pires des paroles blessantes sont celles que l'on profère à l'encontre de ses parents, nos propres parents, ou d'un être sublime, quelqu'un d'éveillé. Alors, on peut parler aussi des paroles futiles, de la convoitise. Tout cela, c'est la même chose, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est simplement pour vous donner des points de repère. Et de savoir ce que c'est que l'accomplissement de choses négatives qui créent la souffrance chez les autres et qui créent des souffrances futures pour nous-mêmes, de mauvaises conditions de vie dans le futur. C'est ça la loi du karma. Mais à l'inverse, ce qui crée les causes favorable pour notre vie, cette vie-ci même et les vies futures, c'est de faire l'inverse de tout ce qui a été dit. C'est facile, finalement. C'est de travailler dans ce sens sur nous-mêmes, d'être conscient de ce qui se passe dans notre esprit, d'être conscient de nos paroles, conscient de nos actes, et ça demande une certaine vigilance au quotidien. Et l'enseignement du Bouddha enseigne cela. la méditation nous apprend progressivement à avoir cette capacité, à créer cet entraînement en nous-mêmes, à créer cette capacité en nous-mêmes de pouvoir être attentif, être vigilant au quotidien dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons accomplir. Et d'utiliser les antidotes à cela pour apprendre progressivement à devenir un meilleur être humain. Et nous créons ainsi les causes de notre propre bonheur futur. Ainsi est la loi du karma. Donc on a un travail à faire. Parce que toutes ces tendances qui sont en nous-mêmes, auxquelles nous répondons de manière instinctive, souvent ce sont des tendances que nous avons héritées de vies passées, que nous avons peut-être entretenues dans cette vie-ci, du fait de notre mode d'éducation, du fait de notre ignorance justement, de notre propre réalité. Et si nous continuons à les entretenir encore, eh bien nous rajoutons des couches et des couches sans cesse sur ces tendances négatives. Et c'est ce qui fait qu'après, pour les déraciner, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, et nous créons de ce fait aussi de plus en plus de potentiel de souffrance pour le futur. Et on peut dire en même temps que dans ce cas-là, nous ne sommes d'aucune utilité pour notre monde ici et notre environnement, hein, parce que quelqu'un qui cultive ou qui ne fait rien pour changer ses tendances négatives, il n'est pas utile aux êtres. Il crée des problèmes aux autres, il crée de la souffrance, et notre monde, s'il rencontre à l'heure actuelle beaucoup de problèmes tels que nous connaissons maintenant, toutes ces choses, eh bien, ça vient de là. Que c'est simplement que chacun est ignorant de sa propre réalité et de son propre mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, finalement, c'est le mode de fonctionnement de l'ego. Parce que tous ces défauts donc, que j'ai énumérés, enfin une partie, il y en a bien d'autres, bien sûr, qu'on pourrait éplucher, mais on n'aura pas le temps. Mais tout cela provient de la saisie égocentrique. Moi, 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 moi. Toujours moi. Et les autres, peut-être, ou jamais. Mais d'abord, moi. Tout ce qui est bon pour moi, c'est pour moi. Tout ce qui est mauvais, je le refile aux autres. Et tout se fonde sur ça. Sur cet ego. De l'ego naît le désir et l'attachement. De l'ego naît la colère et la haine, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, l'avarice. Et le Bouddha, dans son enseignement, dit et propose cultiver l'inverse de tout ça. Si vous êtes très égoïste, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner toutes vos qualités aux autres et à prendre sur vous tous les défauts des autres. Si vous n'êtes pas généreux, il y a des gens qui ne sont pas généreux. Et je me souviens, un maître tibétain avait donné un exercice à faire à son disciple. Ce disciple se plaignait toujours d'être, de ne pas arriver à être généreux. Il arrivait même la moindre chose, il était incapable de la donner. C'était impossible pour lui, il ne pouvait pas. Et son maître lui a donné un exercice à faire. Il lui a donné une pomme dans la main. Il lui a dit, tiens là, dans ta main droite, la pomme, et apprends à la donner à la main gauche. De la main gauche à la main droite. Entraîne-toi comme ça. Et peut-être un jour, tu seras capable de la donner à quelqu'un. Ça veut dire que c'est tout un entraînement. Ça veut dire que toutes ces tendances négatives qui nous créent de la souffrance, si on les transforme, si on fait ce qu'il faut pour cela, eh bien, nous serons capables, même si nous sommes quelqu'un de très avare, de devenir quelqu'un de très généreux, avec l'entraînement. Mais encore faut-il le vouloir. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que la loi de causalité existe. Parce que si on ne sait pas qu'elle existe, on ne fera rien pour que ça change. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que je me trouve dans cette salle, ici sous cette tente, je suis derrière, là, personne ne me voit, tranquille, assis sur une chaise, et je vois ma voisine à côté qui a laissé son sac ouvert, avec son porte-monnaie, il y a de l'argent qui dépasse et tout, et puis tout le monde écoute le lama qui parle, et je plonge la main dans le sac, je prends un porte-monnaie, je le mets dans ma poche. Personne ne s'en rendra compte, tout le monde va s'en aller à la fin, la dame va partir, et peut-être d'ici une heure, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus d'argent, qu'on lui a volé son porte-monnaie. Qui pourra savoir qui lui a volé, la personne qui lui a volé? Ça, c'est celui qui est ignorant, qui ne connaît pas la loi de causalité, et qui ne sait pas que cet acte-là, pour lui, va lui amener beaucoup de souffrance dans le futur. Parce qu'il va laisser des empreintes en son inconscient. Si je suis conscient de la loi de causalité enseignée par le Bouddha, la loi du karma, je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que j'aurai conscience que je créerai à ce moment-là les causes de ma propre souffrance dans le futur. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un gendarme pour me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, je deviens moi-même mon propre gendarme. L'enseignement du Bouddha est basé là-dessus. Personne ne nous punit, c'est nous-mêmes qui créons nos propres obstacles ou qui les levons. C'est nous-mêmes qui créons nos propres souffrances futures ou notre propre bonheur. Nous sommes les maîtres de notre vie. Ce n'est pas un dieu, une divinité quelconque ou un démon quelconque qui aurait le pouvoir sur nous. C'est nous-mêmes qui sommes absolument responsables de notre vie. Moi, je trouve que c'est excellent. Ce que je ne supporterais pas, c'est que quelqu'un décide à ma place, de mon bonheur ou de ma souffrance. Voyez-vous, donc la connaissance de cette loi, l'approfondissement de cette compréhension-là, l'intégration en soi de cette notion de causalité, nous permet d'être beaucoup plus vigilants dans notre vie quotidienne quant à ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Sachant, bien entendu, qu'en même temps que nous créons les germes de souffrance pour nous dans le futur, nous créons aussi de la souffrance chez les autres. Parce que si je suis un voleur, si je suis un meurtrier, si je suis un menteur, etc., ça crée de la souffrance chez les autres. Donc on ne peut pas dire à ce moment-là qu'on est utile au genre humain, on est nuisible au genre humain. Ah, je sais que c'est... Cet enseignement-là, et encore, je le fais très soft aujourd'hui pour vous, hein, parce que si on écoute les Tibétains pur sucre, les produits du Tibet, quand ils enseignent ça, je vous assure que c'est autre chose. Mais il faut pourtant le dire. Il faut le dire, par compassion. Qu'on soit d'accord ou pas, il n'empêche quand même qu'on est soumis à cette loi. Mais il n'empêche aussi quand même qu'on a le choix de se poser des questions quant à cela, d'approfondir la question et de regarder ça d'un peu plus près. On peut le faire. On peut le faire parce que c'est utile. C'est utile. Alors on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais je crois que je vais vous laisser un petit peu la parole. Si vous avez des questions, eh bien profitez-en. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit ? Madame. Attendez le micro, on entendra mieux s'il vous plaît.
Nous vivons ce que nous avons fait dans une vie antérieure, si j'ai bien compris.
Oui, d'une certaine manière. On hérite,
voilà, on hérite
de la force de nos actes, voilà, d'une manière plus ou moins subtile.
Si dans cette vie-là, nous sommes malheureux, nous avons des malheurs, c'est d'après ce que nous avons fait dans une vie antérieure. Donc nous ne pouvons pas nous racheter maintenant, nous sommes obligés de subir jusqu'au bout.
Voilà, c'est une excellente question. La force du karma qui est lancée, il est difficile de l'arrêter si on ne fait pas ce qu'il faut pour ça. Et là entre, bien entendu, la compassion des êtres éveillés qui nous ont donné des outils et des moyens pour pouvoir stopper ça ou pouvoir transformer ça. Certes, ça ne veut pas dire que ça va se faire d'emblée, que ça va se faire tout de suite. Il faudra du temps. Moi, souvent, j'entends dire des gens « Mais j'ai beau être bon dans cette vie, j'ai fait du bien à tout le monde et pourtant, je ne rencontre que des galères et que des souffrances. » Ah oui, je leur dis « D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies passées ?» Vous héritez de ce que vous avez fait dans vos vies passées. Mais ce que vous créez comme bonheur dans cette vie pour les autres et pour vous-même, vous hériterez de ça dans le futur. Ça, c'est la loi générale. Mais il y a des techniques qui existent dans le bouddhisme, et entre autres le bouddhisme tantrique, le bouddhisme ésotérique, des moyens de purification du karma. Ça veut dire que là, il faut bien sûr s'engager, rentrer dans le corps de la pratique et utiliser ces moyens pour pouvoir purifier le courant de notre être, de toutes ces tendances qui ont créé ce malheur et cette souffrance que nous rencontrons. Donc c'est possible. Mais le libre arbitre existe aussi. Parce que c'est ça le libre arbitre, c'est de choisir ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire ou à ne pas faire. Nous pouvons décider nous-mêmes. Cela. Vous comprenez ? Mais il n'empêche que les galères que nous rencontrons dans cette vie, eh bien, nous avons créé les causes, en effet, dans les vies passées. Alors il faut stopper ça, stopper cette mécanique, cet engrenage, et faire ce qu'il faut, utiliser les techniques enseignées par les maîtres et par le Bouddha, pour inverser la mécanique.
Dire, ça veut dire que tout le travail qui est fait par les travailleurs sociaux et autres, la charité obligatoire, ben ça sert à rien, puisque c'est à chacun de nous, après tout ce qui nous arrive, c'est bien fait pour nous, ça veut dire que pour nous, parce que c'est ce que vous avez dit. Mais c'est inévitable, c'était comme ça, puisque c'est le boomerang qui nous revient. Donc, toute cette société qui a du social tout autour et qui nous assiste, ça sert à rien.
Je ne sais pas, ça, c'est peut-être vous qui le dites. Madame, excusez-moi, je ne pense pas avoir dit une chose pareille. Au contraire, tout le bien que l'on peut faire dans cette vie vis-à-vis des autres, eh bien, on crée le bonheur chez les autres finalement. On crée des conditions de bonheur chez les autres et chez nous-mêmes. Pardon ? Oui ?
Je suis pas la seule à avoir pensé la ménage privée, oui. Mon lieu de
subsistance. Oui, il me semble que vous avez bien, vous n'avez pas dit que vous insistez sur le fait que notre vie présente de souffrance n'appartient forcément qu'à notre vie passée et non pas forcément à notre vie présente.
Ça peut l'être aussi.
Ça peut l'être aussi, et je pense que si on peut faire des bonnes choses dans sa vie présente, mais si on n'a pas la bonne attention sans attente, on n'aura pas le résultat positif de nos actions bonnes.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Je pense que vous n'avez pas...
Oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la motivation qui compte, bien entendu. Parce que si j'essaye de faire le bien, mais que ce simulacre de bien cache un intérêt personnel, le résultat sera de la couleur de mon intérêt personnel et de mon égoïsme. Et souvent, c'est pour ça que le Bouddha disait toujours « Regardez votre motivation lorsque vous faites quelque chose ». Regardez ce qui anime vos actes et ce que vous faites. Si votre motivation est pure, eh bien le résultat, même si quelquefois l'activité que l'on a une connotation qui peut paraître douteuse pour certains, eh bien le résultat sera quand même pur. C'est une question de motivation.
D'où vient cette connaissance, enfin cette explication de réincarnation, en fait, parce que ça s'est basé là-dessus, sur un cycle.
Oui, alors forcément, quand on parle du karma, des vies passées, des vies futures, ça remet en question cette notion qu'on appelle communément réincarnation dans notre tradition occidentale, mais qui n'a rien à voir avec ça. Le Bouddha n'a jamais enseigné ça de cette façon-là en tant que réincarnation. Il a parlé de continuité, de renaissance. Se réincarner, ça veut dire réintégrer un corps fait de chair et de sang, fait de karma. C'est un accident parmi d'autres. C'est le karma qui a créé cette forme de naissance. Mais il existe bien d'autres naissances que celle-ci. Donc le Bouddha lui a mis l'accent surtout sur la continuité, sur le fait que la vie est éternelle, elle n'a pas de commencement, elle n'aura pas de fin, et que c'est simplement une succession d'expériences que nous vivrons. Dans cette vie, nous sommes par exemple comme dans une salle de cinéma. On va voir un film qui se projette sur l'écran, toute une histoire. Imaginons que c'est l'histoire de notre vie. Et la séance se termine, la lumière s'éteint, c'est comme si c'était la mort, et on passe dans une autre salle de cinéma avec un autre film. C'est ça, cette notion de continuité. Et la nature du film, elle est relative à nos tendances. L'histoire que l'on va voir, que l'on va vivre, sera relative à ce que nous aurons créé, à notre motivation et tout ce que nous aurons créé à travers le continuum de notre esprit. Ouais, c'est ce sens-là.
Je comprends, mais si je peux me permettre, donc il faudrait que quelqu'un puisse soit avoir une réminiscence de ce qui s'est passé du film d'avant, ou puisse revenir du film d'après pour expliquer le premier et dire bon, bah, voilà, ça se passe comme ça. C'était ça ma question en fait.
Voilà. Alors, en effet, il y a d'ailleurs un bienfaiteur qui était venu voir le Bouddha un jour et qui lui avait posé la question un peu de cette manière-là. Mais maître, qu'est-ce qu'était ma vie précédente ? Je veux savoir ce qu'était ma vie précédente pour justifier ce qu'est ma vie maintenant. Le Bouddha a dit, mais tu n'as pas besoin de savoir ce qu'était ta vie précédente. Regarde ce qu'est ta vie à l'heure actuelle et tu sauras exactement ce que tu as accompli dans ta vie précédente. Et si tu veux savoir ce que sera ta vie future, eh bien, regarde ce que tu as accompli maintenant dans cette vie. Évidemment, un être éveillé, lui, a la capacité de pouvoir voir ça, mais nous, pas encore. Parce que nous sommes, justement, dans cet état d'ignorance qui ne nous permet pas d'avoir cette clarté, cette connaissance. Mais le Bouddha a répondu de cette manière-là. Regarde ce que tu fais dans cette vie maintenant et tu sauras ce que tu auras comme renaissant dans ta vie future, sous quelle forme, avec telle ou telle expérience.
Je voudrais demander le libre arbitre dans le karma. Est-ce que c'est de prendre la décision de faire des actes bonnes ?
Oui, on a le choix.
Ça, c'est pas uniquement venant des vies antérieures.
C'est relatif aussi parce que.
On peut inverser la tendance dans le bon sens.
Plus nous sommes ignorants, plus il nous est difficile, notre libre arbitre est beaucoup plus restreint. Alors voilà, c'est ça, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que moi, si je prends un couteau, j'ai deux possibilités avec ce couteau, d'éplucher mes légumes avec ou de le mettre dans le ventre du voisin. Donc c'est à moi de décider. Et ce qui va faire le choix, finalement, ça va être mes tendances, ce qui va favoriser ce choix. Et ces tendances, elles seront émotionnelles. Si j'ai beaucoup de désir ou de colère en moi, etc., je choisirai plus faire de la nourriture avec le couteau ou aller agresser quelqu'un avec. Tout dépend de mes tendances.
En fait, la question que je vous posais, c'est la part du karma et la part du libre arbitre. J'ai jamais bien su combien il y en a de chaque.
Moi non plus. Elle est relative, ce libre arbitre est relatif à notre degré d'ignorance ou notre degré de connaissance. Plus on est élevé spirituellement, plus on a de libre arbitre. Plus le libre arbitre est vaste, puisque plus l'esprit est vaste. Plus l'esprit est serré et fermé sur l'égoïsme, moins il a de libre arbitre. Plus il est faible, ce libre arbitre. Et ce qui fait qu'on peut changer, c'est la compassion des êtres éveillés. Nous avons tous été une fourmi ou une mouche ou peut-être un scorpion dans nos vies passées, on ne sait pas, je dis ça comme ça. Et ce qui fait qu'on a pu évoluer, c'est que peut-être un jour on a rencontré quelqu'un de bon sur notre route qui nous a aidés, que ce soit un animal ou autre, qui nous a dit ou insufflé des mantras à l'oreille ou nous a enseigné quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'on a pu progresser. Donc on a aussi besoin des autres pour ça, des gens qui nous apprennent,
même les morts
qui nous apprennent. Non, les morts ne peuvent rien nous apprendre. Ils nous apprennent quand ils sont vivants, mais pas quand ils sont morts. Quand ils sont morts, ils sont morts. Dans notre tradition bouddhiste, ça n'existe pas. On ne confondait pas justement la culture, ce qui est culturel finalement, du culte des ancêtres et de l'attachement aux ancêtres. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, ça. Si c'est pratiqué dans certains pays, par exemple comme le Vietnam, ça n'a rien de bouddhiste. C'est pré-bouddhiste. Mais quand on est mort, on est mort.
Du mot compassion, parce que vous l'employez très souvent et dans le bouddhisme on voit très souvent. Et j'ai cherché sur le dictionnaire, une fois il y a compassion, ils mettent pitié.
Non,
c'est
pas
normal. Alors je voudrais savoir chez vous ce que signifie compassion.
Ah, oui. La compassion, c'est être conscient de la souffrance des autres, que cette souffrance nous est insupportable et que nous faisons le souhait de mettre tout en œuvre pour mettre un terme à cette souffrance que subissent les autres. C'est ça, la véritable compassion.
C'est empathique.
Oui.
On parle de karma, on parle aussi d'empreinte karmique.
Mais oui. Alors, pour donner une petite idée, tout le monde a entendu la question ? Parce qu'il n'a pas eu le micro, là.
Oui, je vais répéter ma question. Quand on parle de tendance, on parle aussi d'empreinte karmique. Ça veut dire que les vies passées donc, laissent sur leur empreinte.
Oui, parce que de vie en vie, si on n'a rien fait pour changer nos défauts, on les a entretenus sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et souvent, je fais un petit peu le parallèle. Notre esprit, c'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur. Vous allez lui engranger des programmes, des logiciels, et lorsque vous allez lui demander de faire un travail, l'ordinateur, il va faire le travail en fonction de ce qu'il connaît, en fonction des logiciels et des données que vous lui avez mises à l'intérieur. Eh bien, nous, c'est pareil. Face à une situation, notre conscience va plonger. On pourrait dire, non, c'est inconscient, dans ce qu'on appelle l'alaya en sanskrit, qui est la conscience de l'esprit confus, cette donnée de base, cette mémoire confuse, il va y plonger pour chercher des données qu'il connaît et pour répondre à la situation en fonction de ces données. Et c'est facile à voir dans la vie quotidienne. Par exemple, vous avez 5 personnes qui assistent au même événement, chacune va réagir d'une manière différente. Et elle réagira en fonction de ses tendances, latentes, qui sont imprimées au fin fond même de son inconscient et qui sont le résultat de tendances entretenues par le passé. Certains pourront réagir avec amour et compassion face à une situation, d'autres auront des peurs, des angoisses, d'autres ça sera de la colère ou de la haine, ou d'autres du désir, etc. Et tout ça, c'est lié donc à ce que nous avons entretenu comme tendance dans nos vies passées et que nous avons continué à entretenir dans cette vie-là si nous n'avons rien fait pour changer. Parce que tout est interdépendant.
S'il vous plaît, pour qu'il y ait réincarnation, il faut que nous soyons vraiment morts physiquement, ou est-ce que là, lorsqu'on est mort physiquement et on se renaît, ou est-ce qu'au moment de notre vie, où on vit heureusement de plus en plus longtemps, donc on a de plus en plus un temps de réflexion, et il nous est permis de prendre conscience et de changer. Est-ce que à partir du moment dans cette même vie, si je change, est-ce qu'on peut parler de réincarnation ou la réincarnation passe forcément par la mort physique de notre corps?
Ah oui, absolument. Oui. Il faut quitter ce corps pour pouvoir vivre d'autres expériences.
Son corps pour se réincarner. Alors la vie va être de plus en plus difficile.
Pourquoi?
Parce que c'est de plus en plus long. Si on est réincarné dans un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur, mais si on est réincarné dans des difficultés, avant quand on aurait 40 ans, c'était plus vite.
Excusez-moi, mais Michel, là, je ne comprends pas très bien votre... Se réincarner, ça veut dire naître dans un support qui est fait de chair, de carne. C'est une façon d'évoluer, mais il y en a d'autres. Il y a des êtres qui naissent dans des mondes, qui ont créé un karma pour renaître dans des mondes où les gens n'ont pas de corps physique, ont des corps de lumière, par exemple. Donc il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et il y a un moyen aussi de devenir un être libéré de ces tendances, un Bouddha, si on fait ce qu'il faut pour ça. Donc on a le libre arbitre. Et ce n'est pas une fatalité, la réincarnation. C'est un mode d'être parmi d'autres. Un mode de manifestation parmi d'autres. Enfin, le Bouddha l'enseigne de cette manière. Hein. Je ne veux pas devenir dogmatique. Hein. Voilà, c'est enseigné de cette façon-là.
Je suis très inquiète, donc je me suis rendu compte que des fois on faisait beaucoup de bien sans le savoir.
Pardon, s'il vous plaît.
On peut faire du mal sans le savoir non plus, par une petite parole ou...
Tout à fait.
Alors comment...
Oui.
Est-ce que là, on est responsable? Est-ce que ça vient de la perception différente de la personne en face de vous qui va prendre... qui va mal interpréter votre parole ou votre action?
C'est pas forcément les autres, c'est la manière dont nous-mêmes on aborde la question. Et tout ça, c'est relatif aux voiles qui recouvrent notre esprit, ce qu'on appelle les voiles de l'ignorance. Souvent, on dit le chemin de l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Vous voyez, c'est un petit peu ça dans les dictons français, on entend ça souvent, mais ça veut bien dire ça. tant que nous n'avons pas la sagesse en nous-mêmes, quelquefois nous pensons faire le bien à quelqu'un alors que on fait complètement l'inverse, tout simplement parce qu'on est voilé, notre conscience est voilée, on ne voit pas la réalité des choses. Et c'est pour ça que le Bouddha dit toujours, d'abord faites le ménage chez vous, en vous-même, voyez vos défauts, voyez et purifiez-vous intérieurement, et comme ça vous aurez progressivement de plus en plus la capacité d'aider les autres d'une manière correcte, d'une manière efficace, hein, et utile pour les autres.
Et la méditation aide certainement ça aussi.
Voilà, c'est un des points clés, bien sûr, des méthodes. Mais il existe d'autres méthodes dans le bouddhisme qui ont pour base aussi quand même la méditation. Quand on parle méditation, c'est toujours pas très clair, en fait, dans notre esprit. Mais ça, je peux peut-être en parler comme ça là, si ça vous intéresse. Mais on abordera ça l'année prochaine, parce que je vais revenir donc tous les deux mois, hein, régulièrement, et l'année prochaine, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la pratique. Mais tout ça, jusqu'ici, ce que j'ai enseigné jusqu'ici, c'est les bases pour pouvoir comprendre le fondement de l'enseignement du Bouddha. Parce que si on n'a pas intégré en nous-mêmes ce qu'est une précieuse existence humaine, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous avons à y faire, c'est ce que j'ai déjà enseigné. Si nous n'avons pas intégré en nous l'impermanence et la mort, si nous n'avons pas intégré en nous la loi du karma, si nous n'avons pas compris la défectuosité, l'absurdité du cycle des existences, on ne pourra pas développer la méditation sur bonne base. C'est pour ça que j'enseigne tout ça. La prochaine fois, je parlerai justement de la psychologie du cycle des existences. Qu'est-ce qui fait qu'on crée un état animal en nous, un état de Dieu en nous-mêmes, ou un état d'esprit à vide en nous, un état de monde infernal en nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, il faut intégrer tout ça pour créer une base, un fondement solide, pour que la pratique du Dharma, la pratique de l'enseignement du Bouddha, se développe, et entre autres la méditation. Alors, méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, souvent, dans nos pays occidentaux, on pense méditer, c'est j'ai des problèmes, donc je vais réfléchir sur ce problème pour trouver la solution à ce problème. Ça peut être une forme de méditation. Ou je vais lire un texte inspirant, deux lignes, et je vais contempler ce texte, je vais méditer dessus pour en intégrer le sens. Ça peut être ça. On comprend, on peut peut-être comprendre ça comme ça. Ou alors on se dit, méditer, moi j'imagine que c'est plutôt atteindre un état extatique de l'esprit, ou un état de transe que je fabriquerai moi-même, ou pour sortir de mon corps, ou pour obtenir tel ou tel pouvoir, etc. Bien entendu, si on se réfère à l'enseignement du Bouddha, la méditation n'a rien à voir avec cela. Méditer, pour le Bouddha, c'est libérer l'esprit, c'est défaire les nœuds de notre esprit, qui l'empêche lui-même de voir la nature des choses telle qu'elle sont, telle qu'elle est. Ça veut dire qu'on ne va rien créer de spécial, on va au contraire dénouer toutes nos fabrications, toutes nos machinations, tous nos subterfuges, tous nos scénarios, tous nos masques. On va abandonner tout cela à travers la vigilance et la détente du corps, de la parole et de l'esprit. C'est ça la véritable méditation. C'est-à-dire qu'on va aller progressivement à travers cette détente et cette vigilance, on va parvenir à démonter totalement et purifier totalement notre esprit conceptuel sur ça j'aime, ça j'aime pas, ça je veux, ça je veux pas, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est pur, c'est impur, etc., etc. On va transcender la pensée humaine grâce à cette pratique pour réaliser sa véritable nature, la nature de notre propre esprit et la nature de la projection des choses qui apparaissent dans le courant de notre esprit. C'est ça la véritable méditation. Donc il n'y a rien à fabriquer. Il n'y a rien à construire, il n'y a rien à élaborer, il n'y a qu'à démonter. Démonter tous nos mécanismes égoïstes, égocentriques, compliqués, névrotiques. C'est cela la véritable méditation. On va apprendre à ne rien faire, à abandonner momentanément toute activité extérieure pour apprendre à se rencontrer soi-même, à voir le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de nos pensées, nos tensions, toute notre façon de fonctionner pour pouvoir apprendre à dénouer progressivement tout cela. C'est ça la méditation. Enfin,
d'une manière. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il peut très bien rentrer en mouvement. De ne rien faire en fait dans quelque chose justement et atteindre le même état.
Selon l'enseignement du Bouddha, c'est pas possible dans un premier temps. Parce que tant qu'on est absorbé dans l'activité, on n'a pas conscience réellement de ce qu'on fait. On peut avoir conscience pendant une ou deux minutes et puis après l'esprit lui-même est distrait par autre chose. Celui qui parvient à avoir conscience, si c'est peut-être votre cas, je ne sais pas, dans l'activité, à chaque instant, chaque seconde de votre activité.
Dans l'activité, ça peut être sur certaines fois, par exemple, quand je pratique du tai chi, je peux arriver
à... Oui, donc vous êtes dans une condition particulière. Voilà, donc là, c'est pareil, quand on parle de méditation, ça veut dire momentanément, pour un temps, ça peut être une demi-heure, une heure, ou plus si on a cette capacité, de pouvoir arrêter toute activité extérieure, se poser sur un coussin. Et se regarder soi-même, regarder nos émotions, nos gènes physiques, nos gènes mentaux, notre façon de fonctionner, et apprendre à se détendre dans la vigilance. C'est ça la véritable méditation. Et après, une fois qu'on est entraîné sur le coussin, eh bien, cette capacité qu'on a pu acquérir de cette manière, on la prolongera dans notre activité quotidienne. Mais faire l'inverse, penser que c'est pas nécessaire de s'asseoir sur un coussin et penser qu'on peut le faire uniquement dans l'activité, moi je dis c'est faux.
Non, pas qu'uniquement, mais après je pense que c'est propre à chaque individu. Enfin, pas forcément assis sur un coussin.
L'enseignement du Bouddha le montre comme ça.
Si quelqu'un dans notre vie présente elle nous fait du mal, ça veut dire que dans une autre vie on lui a fait du mal. Alors pour qu'il y ait une notion d'égalité, faut qu'on riposte pas, faut qu'on fasse rien du tout.
Ça dépend, des fois un coup de pied dans le derrière ça peut être utile s'il est fait, s'il est donné avec compassion. Tout est dans la motivation, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, ça serait plutôt d'essayer d'éviter de répondre à la violence par la violence, si c'est possible. De calmer le jeu, d'essayer au contraire de pouvoir voir que finalement la personne qui nous agresse n'est pas maître elle-même de ses propres émotions et que nous avons certainement une dette envers elle négative d'une certaine manière et qu'on a peut-être plus intérêt à développer la compassion, le pardon, que de répondre à cet acte-là par la violence. Alors je ne dis pas que c'est facile, bien sûr, ça s'apprend. Hein. Quelquefois, il est nécessaire pour défendre sa vie aussi de faire une prise de judo et puis immobiliser la personne pour pouvoir. Vous voyez, tout est une question de motivation. Mais si c'est pour nuire à l'autre, pour le tuer ou le détruire, il est certain que là, on engendre un karma qui est complètement négatif et ça sera une dette karmique encore avec cet être, mais à inverse, dans la vie prochaine. Hein? Donc, vous voyez. Bon, alors évidemment, je sais, on aimerait des réponses toutes faites. Vous savez, l'être humain est comme ça, surtout les Occidentaux. On aimerait bien des réponses à tout, la coller dans un tiroir avec une étiquette, et puis quand on en a besoin, ouvrir le tiroir et avoir la réponse comme ça définitive. Mais ça ne se passe pas comme ça au niveau des choses. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui sont impliqués dans chaque situation que l'on peut vivre, qu'on ne peut pas agir de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on acquiert la sagesse, qui permet de voir au-delà des apparences. Et c'est à travers la pratique de la méditation qu'on va acquérir cette sagesse et qui fera que l'on pourra beaucoup plus facilement répondre aux situations de manière juste, dans tous les cas.
Oui, je souhaiterais savoir comment on peut initier les enfants, nos enfants, au karma. Comment approcher leur dire qu'en effet tout ce qu'ils font c'est un petit peu compliqué, enfin déjà que c'est compliqué pour nous, comment leur dire que ce qu'ils font ça peut être mauvais pour l'avenir?
Je crois que ça peut être d'une manière très simple, il faut essayer toujours de se mettre au niveau de l'enfant et d'utiliser des mots qu'il peut comprendre. Le karma il peut être expliqué d'une manière simple. Tu vois là, il y a le four dans la cuisine qui chauffe. Maman elle te dit de ne pas aller dans la cuisine et pas toucher le four parce que tu vas te brûler. L'enfant, il va comprendre ce qu'on lui dit. Mais à un moment donné, il ira quand même toucher le four. Il mettra la main dessus, il va se brûler. Ben ça, c'est le karma, la rétribution directe. Il y a eu un acte et il y a eu une réponse, un effet à cet acte. Et on peut lui expliquer le karma sur cette base-là.
En période adolescente, ça, c'est ce que je suis en train de vivre. Et...
je compatis. Voyez-vous, je pense que les grands discours sont difficiles au départ, surtout quand les êtres ne sont pas prêts à l'entendre. Et la meilleure manière, si vous voulez, de leur faire comprendre des choses, c'est d'être soi-même un exemple, de le vivre au quotidien pleinement. Oui.
Je voulais savoir si Bouddha avait laissé des écrits, ou enfin, s'il y avait un enseignement comme ça avec des écrits, ou si c'était uniquement par la pratique et par les relationnels.
Le Bouddha n'a jamais rien écrit lui-même, comme Jésus n'avait jamais rien écrit. Ce sont ses disciples qui ont retenu ses enseignements, qui sont des disciples éminents pour beaucoup, et qui ont transmis ces enseignements au cours des siècles, parce qu'au début il n'y avait pas d'écrits. Les premiers écrits sont apparus au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, en ce qui concerne le bouddhisme, et ça s'est toujours transmis de manière orale, de maître à disciple. C'est-à-dire que ce qui avait été enseigné par le Bouddha a été expérimenté par le disciple du Bouddha, qui lui-même l'a réalisé, devenu un maître. Le maître, rappelons-nous, c'est celui qui maîtrise, hein. Le disciple, c'est celui qui pratique la discipline. Tant qu'on n'est pas un maître, il faut pratiquer la discipline. Et d'ailleurs, même quand on est un maître, on pratique toujours la discipline, mais ça se fait spontanément. Donc ça s'est toujours fait de cette manière-là, et c'est comme ça que cette sagesse s'est transmise. Il y a une énergie spirituelle qui s'est transmise. Mais il est vrai qu'au cours des siècles, sont apparus des textes, et les disciples du Bouddha donc, ont compilé mentalement ces textes qui ont été écrits plus tard, et qui forment ce qu'on appelle le Tripitaka, les trois corbeilles, et qui concerne les trois cycles d'enseignement principaux qu'a donné le Bouddha tout au long de sa vie. Le premier concerne la conduite, la discipline, comment se conduire soi-même en tant qu'être humain au quotidien. C'est valable pour les laïcs comme pour les monastiques. Le deuxième cycle d'enseignement, ce sont les moyens discours, les sutras, sur différents sujets, il a enseigné. Hein. Et le troisième cycle d'enseignement, c'est ce qu'on appelle l'abhidharma, c'est tout l'aspect philosophique, ésotérique, tantrique, etc., où il a donné des clés. Donc il existe bien entendu des écrits là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bouddhisme, on n'apprendra pas à se libérer de la souffrance en lisant des livres. C'est dans la relation avec le maître, celui qui a maîtrisé déjà cela, qu'on arrivera nous-mêmes à acquérir cette connaissance-là. Donc il y a toujours une transmission, si vous voulez, de connaissances, d'expériences. Et c'est ce qui fait que le bouddhisme est toujours très vivant à notre époque et permet encore aux êtres de se libérer de la souffrance. C'est parce que, justement, il y a cette authenticité, cette pureté de transmission qui s'est faite à travers les siècles. Alors, lire les textes, il existe une multitude de traités, à la fois en sanskrit, en chinois, en tibétain, en pali, etc. On peut se référer à ces textes-là. C'est bien de les apprendre, c'est bien de voir, de comprendre les choses, c'est bien de venir écouter les enseignements des enseignants, des vénérables ou des maîtres spirituels qui enseignent, mais après il faut les mettre en pratique, et c'est là où ils prennent toute leur valeur. C'est là où on peut les réaliser. Parce que si ça ne reste qu'intellectuel, au moment de notre mort, on mourra, oui, on sera une encyclopédie vivante, mais est-ce qu'on sera, on aura appris à devenir un meilleur être humain? C'est pas garanti. Donc il faut mettre en pratique, en expérience, cet enseignement. Il faut le réaliser intérieurement. Donc il y a un effort à faire, bien entendu. Ce n'est pas un effort intellectuel, forcément. Et on dit que pour l'être humain, la difficulté, c'est d'ailleurs la plus grande distance qu'il a du mal à franchir lui-même, c'est les 30 cm qui séparent là de là. C'est de passer de l'intellect au cœur. Cœur, c'est l'essence même de la compréhension. C'est ce que ça veut dire. Donc il est important de mettre en pratique pour pouvoir réaliser cette sagesse. Dire dans les livres, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Oui, concrètement, intellectuellement, si je suis attirée par votre discours, comment je fais pour mettre en pratique l'initiation à la méditation ?
Écoutez, après, à partir de là, il y a toute une démarche à faire, et elle vous appartient, cette démarche-là. Déjà, de choisir la voie, si le bouddhisme vous attire, il existe différentes voies dans le bouddhisme. Bon, en ce qui me concerne, je représente la voie tibétaine, mais ici, il y a la voie du Mahayana vietnamien, il y a la voie du Zen, il y a d'autres voies dans le bouddhisme, la voie du Theravada, que l'on rencontre à Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, etc. Donc à partir de là, c'est à vous de choisir. C'est une question de karma aussi, en même temps. Et puis une fois qu'on est sensibilisé par l'une de ces voies, eh bien, il faut écouter les enseignements des maîtres qui incarnent cette voie-là, la sagesse de cette voie, les écouter, et puis progressivement, à travers les conseils qu'ils vous donnent et du lien que vous pouvez créer avec le guide spirituel, eh bien, vous allez mettre en pratique cela. Donc voilà, tout vous appartient finalement, c'est entre vos mains. Mais sachez que ce n'est pas... à travers l'étude des livres, que vous pouvez vous libérer de la souffrance. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a un proverbe tibétain qui est d'ailleurs, je trouve, assez dur, mais les Tibétains sont comme ça, ce sont des gens quand même assez... un petit peu des montagnards, et ce proverbe dit « Sur le lit de mort d'un érudit gît le cadavre d'un être ordinaire. » Je crois qu'il y a une chose que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Nous souhaitons tous être heureux et nous ne souhaitons pas rencontrer de souffrance. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui souhaitait souffrir. Ou alors, c'est qu'il avait perdu la tête. Il était devenu fou. Mais on a tous au moins ce point commun. Déjà, nous sommes des humains. Nous vivons dans le même monde humain, peut-être dans des sociétés et des cultures différentes, mais nous aspirons tous aux mêmes choses. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, dans beaucoup de pays, et je me suis rendu compte que tous les êtres aspiraient à la même chose et commettaient les mêmes erreurs. Donc à partir de là, puisque nous avons les mêmes aspirations et nous ne voulons pas les mêmes choses, pourquoi nous combattre ? Déjà. Je crois qu'on a tous intérêt à partir de là à s'entraider pour apprendre déjà dans un premier temps à devenir un meilleur être humain. Je crois que c'est le travail de cette vie, de notre vie. On a tout intérêt à le faire. Ça sera utile pour nous et ça sera utile pour notre monde. Et comme disait le Dalai Lama, si tu veux créer la paix dans le monde, il faut d'abord la créer en toi. Si tu ne crées pas la paix en toi-même, tu ne pourras jamais offrir cette paix aux autres. Et le but, finalement, d'une voie spirituelle, puisqu'on peut considérer que le bouddhisme est une voie spirituelle, plus peut-être qu'une philosophie, une religion, encore on peut en discuter, mais c'est avant tout une voie spirituelle. Et le propre de toute voie spirituelle, c'est d'apprendre à devenir meilleur, à aller faire toujours plus de lumière, et à aider les autres à faire de même, à contribuer au propre bonheur des autres. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est nous-mêmes, on souhaite le bonheur, on souhaite que les autres soient heureux, et on crée toutes les conditions pour qu'eux-mêmes rencontrent ce bonheur. C'est ça le véritable amour. Et ça n'a rien à voir avec un amour égoïste. Parce que l'amour égoïste, c'est « je t'aime, mais à condition que tu ailles dans le sens de tout ce que je veux moi-même ». Hein, je t'aime, je te possède, tu es à moi, et rien d'autre qu'à moi. C'est encore l'ego, bien sûr. Là, ça n'a rien à voir avec cet amour dont il est question, l'amour des Bouddhas, qui est vaste, infini, sans limite, qui est impartial, Un Bouddha ne va jamais favoriser certains êtres plutôt que d'autres. Il va donner autant d'amour aux uns et aux autres. Pareil, ce qu'il connaît, ce qu'il côtoie, et d'ailleurs c'est même encore pire ce qu'il côtoie. Pour eux, c'est pas facile, je peux vous dire. Parce que vivre auprès d'un être éveillé, comme on dit, c'est pas de la tarte. Et même ceux qui détestent, finalement, ou ceux qui sembleraient détester, qu'on pourrait prendre pour étant des ennemis. Quand on regarde, par exemple, le Dalai Lama, il aurait plus d'une raison de prendre les armes contre les Chinois pour se révolter contre ces êtres-là qui ont complètement détruit leur pays, qui ont massacré 1,5 million de personnes, torturées, détruites. Il aurait plus d'une raison de le faire. Et il a toujours pardonné. Il a dit, mais jamais avec les armes, on ne pourra régler le problème. Ça sera pire encore. Si le Tibet a subi ça, eh bien c'est qu'on a créé les causes par le passé. Donc il faut voir en nous-mêmes ce qui ne va pas, ce qui a produit cela, et faire en sorte que ça change. Et un jour, je me souviens, lorsque j'étais en retraite de 3 ans, j'avais posé une question à mon maître spirituel. Et je vais vous dire, Rinpoche, on les appelle comme ça. Rinpoche en tibétain, ça veut dire le précieux. Hein, c'est un titre honorifique, aux êtres réalisés, on les appelle comme ça. Rinpoche, mais je ne comprends pas comment vous allez, vous-même, être éveillé, qui avez autant de puissance, vous auriez pu, je ne sais pas moi, comme Moïse, ouvrir l'océan, ou faire s'abattre les montagnes, le tonnerre sur ces êtres-là. Vous avez des protecteurs. Comment se fait-il que vous n'avez pas utilisé vos pouvoirs contre les Chinois qui sont venus détruire votre pays? Il m'a regardé et il a dit, c'est pas les Chinois communistes qui ont envahi le Tibet, c'est la saisie égocentrique. Et contre ça, on peut rien y faire pour l'autre. Chacun peut faire que pour lui.
La meilleure façon de résister aux Chinois, puisqu'ils veulent complètement les anéantir au niveau de la culture, c'est d'apprendre le tibétain.
La meilleure manière de lutter contre la violence, c'est de devenir non-violent soi-même et de devenir un Bouddha, un être éveillé. C'est la meilleure manière.
Je me souviens, le même enseignement avec la main de Zang, quelqu'un l'a posé, mais les Chinois, ils ont envahi, ils ont torturé et autres, pour le bien. Sa réponse était tout simple. N'oubliez pas que nous sommes bouddhistes, nous croyons la loi du karma de la renaissance. Qui vous dit que dans une prochaine naissance, je ne vais pas être Chinois? Voilà. Sa réponse est, est-ce que je veux haïr moi-même?
Voilà,
tout ça et tout.
C'est une autre réponse. Tout à fait pertinente.
Du coup, ce que vous nous avez expliqué sur le karma, c'est finalement un système un peu individuel où chacun est responsable de lui-même. Par l'exemple que vous venez de donner par rapport à la vie donc, du Tibet, de son invasion, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du karma collectif?
Oui, ben, karma collectif, ce n'est rien que des karmas individuels qui se ressemblent et qui s'assemblent. Le Bouddha l'enseigne comme ça. Déjà, le fait que nous soyons des êtres humains, c'est que nous avions un karma pour être humains. Si nous sommes nés dans le même pays, nous avons un karma qui est commun aussi. Nous avons la même culture, c'est de la même manière, un karma commun. Si nous sommes nés dans la même ville, c'est pareil. Dans la même famille, c'est que nous avons un karma commun. On a créé des causes semblables, similaires, mais qui ne sont quand même que des causes individuelles. Personne ne peut vivre le karma d'un autre ou purifier le karma d'un autre. Et inversement, ça n'existe pas selon l'enseignement du Bouddha. C'est nous-mêmes qui avons créé nos propres limites, c'est à nous-mêmes de les retirer. Le Bouddha Shakyamuni l'a enseigné véritablement de cette manière-là. Nous sommes les maîtres de notre propre vie, mais en même temps, indirectement, nous sommes responsables aussi des autres. certaine manière. Madame, d'abord.
Au sujet, justement, au sujet du libre-arbitre,
Oui.
Ce qui m'inquiète, enfin, nous, on a la chance d'être dans cette vie, de pouvoir justement essayer d'atteindre l'éveil ou d'aller vers dans cette direction. Mm-hmm. Mais alors, comment expliquer ceux qui, malheureusement, par exemple, sombrent dans la folie ? Ils n'ont même pas la chance de pouvoir. Là, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont piégés dans leur folie et ils n'ont pas, ils peuvent pas avoir de chance d'évoluer.
Ça, vous n'en savez rien.
Pardon.
Vous n'en savez rien.
Je ne sais pas justement.
C'est ce que vous voyez peut-être en apparence, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans leur esprit. Peut-être certains n'ont pas de libre arbitre, d'autres l'ont, minime, d'autres plus important. On n'en sait rien. Mais ce qu'il faut voir quand même là, c'est que des causes ont été créées par le passé qui a donné ça comme résultat. Une fois, je me souviens, lorsque j'enseignais ça, une dame s'est levée en hurlant dans la salle. « Alors, la main, mais vous prétendez que quelqu'un qui est né handicapé, il est responsable ?» Ben, je lui ai dit, je suis désolé, mais si on se réfère à l'enseignement du Bouddha, oui, d'une certaine manière, oui. Pour elle, c'était inconcevable que cet être-là ait pu créer les causes de son handicap dans sa vie d'avant. Je sais que c'est difficile. Peut-être cette personne avait quelqu'un d'handicapé dans sa famille, peut-être un enfant. C'était dur pour elle d'accepter ça. Cette vérité du karma, elle est quelquefois difficile à avaler, mais le Bouddha l'a enseigné comme ça. Et donc voilà, on le croit ou on ne le croit pas. Après, on a le choix. On a aussi là le libre choix, nous-mêmes, hein, de croire ou pas croire. Mais en tant que moi-même, lama et moine, et qui ai l'expérience un petit peu, si j'ai un petit peu d'expérience de cet enseignement, je crois que ça vaut la peine d'y croire. Parce que ça nous rend beaucoup plus libres, beaucoup plus aimants, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus utiles à l'humanité et aux êtres. Et c'est pas l'opium du peuple, hein, croyez pas. C'est pas ça. C'est une réalité. Et on peut le constater dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui est sans cesse animé par la colère et la haine ne rencontrera que des situations difficiles, des situations de colère, de conflit, de haine. Quelqu'un qui est bon, qui est gentil, qui est doux, même si quelquefois il va rencontrer quelques obstacles, il attirera les êtres à lui. De cette manière. Si moi-même un matin je suis de mauvais poil, ça vous est arrivé à tous et à toutes, peut-être au moins une fois dans votre vie, vous vous réveillez le matin, vous devez aller bosser et vous êtes de mauvais poil. Vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a rien qui va. Le café est mauvais, la chemise est mal repassée, les chaussures sont sales, on trouve tous les défauts à notre femme ou notre mari, ça ne va pas. Et on doit se rendre au boulot et on est en retard. Et ça va pas. On court comme un fou, on descend l'escalier comme un dingue, la cravate de travers. On sort de la maison et on voit même pas une personne qui passe sur le trottoir, on la bouscule. Et au lieu de s'excuser, c'est renversant ce que je dis là. Et au lieu de s'excuser d'avoir bousculé cette personne, on va l'insulter. Vous croyez que cette personne-là va aller chez le fleuriste nous acheter des fleurs pour nous dire merci? On risque de prendre un marron sur le nez. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Rapide, quoi, le karma instantané. Voilà. Cause, effet. Madame, il n'y a qu'un micro, donc on fera après. Vous après, puis monsieur là-bas.
Excusez-moi, d'après ce que vous avez dit sur le Tibet, donc, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces associations qui se forment pour la libération du Tibet? Alors, c'est pas la peine.
Non, j'ai pas dit ça. C'est utile, mais si vous voulez, fondamentalement, ce qui est plus utile, c'est de pratiquer la vertu, pratiquer le dharma, pratiquer la méditation pour se libérer nous-mêmes de la souffrance. C'est comme ça qu'on pourra faire de notre monde un monde meilleur. Là, je vous place la barre haut, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait au niveau relatif n'est pas bien. Moi, je pense qu'un pratiquant bouddhiste a plus intérêt à approfondir sa propre méditation qu'à aller militer et faire de la politique pour libérer le Tibet. il sera plus utile d'une manière profonde et ultime, d'une certaine manière. Faire la politique, c'est le propre des politiciens. Faire la guerre, c'est le propre des guerriers. Et devenir sage, devenir un Bouddha, c'est le propre des méditants et des pratiquants de la vertu. Madame, vous vouliez poser une question ?
Je voudrais savoir, on m'a dit que quand on est malgré qu'on soit né à l'autre bout du monde, que c'est pas un hasard si on est à un certain endroit, qu'il est bon de retourner au moins une fois dans sa vie à cet endroit pour recontacter les énergies qui nous ont fait naître.
Dans cette vie, l'endroit où on est né
dans cette vie.
Ça, c'est individuel. Pour certains, ça n'a pas d'importance. Pour d'autres, ça l'a. Hein. Si ça peut aider. Voilà, pourquoi pas. Mais si c'est une source d'attachement, par contre, c'est pas bien. C'est un obstacle. Monsieur, là-bas ?
Excusez-moi, maître, pouvez-vous nous parler du karma, par exemple, des personnes qui se sont convoyées dans une voie spirituelle et donc guidées par des êtres malfaisants qui les conduisent, par exemple, à la destruction des autres? Que peut-on dire du karma de ces genres de personnes?
Donc il est vraiment mauvais.
Même si eux, croyant pratiquer une voie spirituelle positive,
C'est parce que ça, ce sont les voiles de l'ignorance qui recouvrent l'esprit, qui permet de ne pas voir la réalité des choses. On prend pour gourous des êtres néfastes, on leur voit des qualités alors qu'ils n'ont que des défauts, etc. Et des gens qui sont peut-être très habiles, parce qu'il y en a qui sont très malins, hein, qui ont certains pouvoirs sur les êtres. Mais ça, c'est une question de karma. Hein. C'est... Alors expliquer quelles en étaient les causes par le passé, ça, seul un être éveillé pourrait le dire. C'est individuel.
Et comment faire pour ces personnes pour éviter cela, s'ils n'ont pas dans leur entourage des personnes, des bonnes personnes?
C'est qu'ils ont encore un plus mauvais karma. Donc il faut faire des prières pour eux. Et quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas de solution d'une manière très relative, il existe la prière. On est dans une voie spirituelle, faire des souhaits, des prières pour que les choses changent. Et la prière, c'est une force extraordinaire. Sans ça, personne ne prierait si ça n'avait pas d'utilité. Donc, et ça existe dans le bouddhisme aussi. On parlait de la méditation tout à l'heure, mais il n'y a pas que la méditation. Il y a la prière, il y a l'activité quotidienne, le service aux autres, l'altruisme, il y a tout ça. Hein. On prie pour les vivants, on prie pour les morts aussi, pour les aider à franchir les étapes, etc. C'est pas un culte non plus, mais c'est simplement par compassion, on aide. Oui, la prière est très importante quand on n'a pas d'autres solutions. Parce qu'on n'a pas toutes les solutions. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, les guerres, tout ce qui se passe à droite, à gauche, on aimerait que tout s'arrête. Mais on est impuissant face à ça. Alors on a le choix, évidemment, de prendre des armes et d'aller se battre aussi. C'est ce que l'être humain a fait depuis des temps sans commencement. Si c'était ça la solution, il y a longtemps qu'on devrait être en paix. Or, ce n'est pas ça. Donc il y a peut-être d'autres façons de faire. Il faut s'interroger justement sur les autres manières de faire.
Quelque chose, alors un Bouddha, je
ne
sais pas comment ça
marche. Ça dépend. Ça dépend en quoi vous croyez. Si vous êtes communiste, vous pouvez prier Mao, Staline.
Je veux savoir, est-ce que c'est une prière qu'on adresse, ou est-ce que. Donc, du coup, on j'ai l'impression qu'on possède le Bouddha puisqu'on lui demande quelque chose. Plutôt que ce soit lui qui nous donne. J'ai toujours du mal à cette possession dans la demande.
Je pense que c'est la connaissance de notre réalité, d'être impuissant, de cette notion d'humilité aussi, de savoir qu'on ne peut pas tout résoudre, on n'a pas toutes les clés, et qu'il est important de s'adresser à des êtres qui ont les capacités que nous n'avons pas, qui peuvent nous aider. C'est ce qu'on appelle les bodhisattvas. Eux-mêmes ont fait vœu à travers leur vie, de toute leur incarnation, leur expérience dans les différents mondes, d'aider les êtres, de favoriser le bien-être des êtres. Donc on peut demander à ces êtres-là, mais en règle générale, quand on prie, c'est l'ultime. L'ultime, c'est quoi ? C'est l'esprit, finalement. Et l'esprit, il est partout et en toutes choses. Et c'est ce pouvoir de l'esprit que l'on prie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors peut-être on n'est pas encore capable de le faire. Alors on peut prier en effet le Bouddha, on peut prier différentes formes. le Bouddha se manifeste sous différentes formes. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. On ne parle pas de Bouddha en tant qu'être humain. Hein. Ce Bouddha, en sanskrit, ça veut dire l'éveillé. Donc l'être ultime qui est éveillé. Donc on peut prier cette, ce fondement de l'esprit éveillé et qui prend différentes formes à travers les siècles, à travers les âges. L'esprit s'est manifesté à travers différents êtres sages. Il y en a une multitude dans toutes les traditions et toutes les cultures. Mais fondamentalement, ce que l'on prie, pour certains on dirait c'est Dieu, d'autres diraient Bouddha, mais finalement on prie l'esprit, la base de tout. Et ça, ça crée une disposition positive et qui permet de mettre en œuvre certaines forces qui nous dépassent. C'est pour ça que je disais qu'il faut toujours faire preuve d'humilité et pas penser que on est là à pleurnicher, à quémander. C'est quelque chose qui naît, qui jaillit spontanément du cœur. C'est l'appel du cœur, c'est ça la véritable prière. C'est pas une combinaison ou un espèce de mécanisme élaboré intellectuellement avec des intérêts par-ci par-là. Non, c'est le cri du cœur. Oh mon Dieu, oh Bouddha, je vous en prie, aidez dans cette situation-là. Voilà, c'est quelque chose qui doit sortir du cœur, et c'est ça la véritable prière. Alors évidemment, il existe des textes élaborés pour les gens qui n'ont pas encore cette capacité à faire comme ça, qui mettent en condition. Mais la véritable prière, c'est quelque chose qui jaillit du cœur. C'est pas une combinaison de l'intellect. Si c'est une combinaison de l'intellect, de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà. Justement, quand on prie et qu'on ne voit pas de résultat à cette prière, d'abord, c'est peut-être qu'on manque de patience, parce qu'il faut du temps, et peut-être que notre prière a été mal faite, sur de mauvaises bases, avec une mauvaise motivation. Et quand elle est faite avec une bonne motivation, qui est une motivation qui n'est pas égoïste, eh bien, je peux vous assurer qu'une prière vraiment faite comme cela, elle porte ses fruits à un moment ou à un autre, mais il faut du temps, le temps de mûrir. Hein ? Il faut que les choses se mettent en place. Moi, je fais le souhait que cette pagode, par exemple, eh bien, renaisse de ses cendres, c'est le moment de le dire, et je vous assure qu'elle sera bien plus belle encore après, qu'elle aura un plus grand rayonnement, et qu'elle attirera encore plus d'êtres, et qu'elle aidera bien plus d'êtres encore après ce qui lui est arrivé. Et ça, je fais ce souhait, et je suis certain que c'est comme ça que ça va se passer. On pourra en reparler d'ici quelques années, si je suis encore de ce monde. On a encore un petit peu de temps, si vous voulez, encore un quart d'heure. Vous avez encore des choses sur lesquelles vous voulez parler.
Là, moi, est-ce que vous pouvez parler du monastère? Est-ce qu'il s'y passe? Le monastère dont vous êtes issu?
Qu'est-ce qui s'y passe? Mais ça ne te regarde pas. Dans un monastère, il y a des moines austères. Mais le choix de la vie monastique, c'est un choix personnel. C'est un engagement de vie, un choix de vie, dont le fondement est la compassion, l'amour et la compassion. C'est-à-dire qu'on utilise son temps, tant que faire se peut, avec ce que l'on a pour être utile aux autres. À travers l'activité, à travers la prière, à travers l'aide, à travers l'enseignement, à travers l'accompagnement des gens en souffrance, l'accompagnement au deuil, l'accompagnement de fin de vie, la maladie, etc. Et c'est ça le sens de prendre des vœux monastiques et le fait de vivre dans un monastère, c'est pour nous protéger nous-mêmes et continuer notre pratique pour éviter de se perdre dans le monde. On a besoin de retourner à la source dans ce monastère, se mettre en retraite pour actualiser notre pratique de façon à ce qu'elle reste toujours vivante et que l'on puisse toujours amener ce qu'il y a de meilleur aux autres. Donc c'est un engagement de vie, la vie monastique. Mais on peut être bouddhiste sans être un moine ou une nonne, bien entendu. Dans la vie quotidienne, c'est ça l'enseignement du Bouddha, c'est savoir se comporter au quotidien. Devenir un meilleur être humain au quotidien. Tout le monde peut apprendre à être bon, à être généreux. Tout le monde peut apprendre à être humble, à être doux avec les êtres. Mais pour pouvoir arriver à faire ça, il faut d'abord apprendre à être bon et à être doux avec soi-même. Parce qu'on ne peut donner aux autres que ce que l'on possède. Si on ne possède pas la douceur en soi, qu'on ne l'a pas cultivée, comment peut-on l'offrir aux autres? Et c'est à travers, justement, ces lieux de pratique que l'on peut apprendre cela. Il faut s'entraîner. Et c'est tout le sens de la pratique du bouddhisme, c'est un entraînement. Et d'ailleurs, en tibétain, on utilise un terme qui est gom. Et souvent, on le traduit par méditation gomme, alors que c'est faux en tibétain. Ça veut dire gomme s'entraîner. Et quand on va au Tibet, il y a des gompas. Les gompas, c'est le lieu où on vient s'entraîner à devenir meilleur être humain pour devenir un Bouddha un jour et se libérer de la souffrance. Donc la gompa, le monastère, c'est un lieu où on apprend les techniques pour se libérer de la souffrance et aider les autres à faire de même. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
On peut dire aussi que vous enseignez pour par moi au monastère. Le premier de samedi de chaque mois.
Ouais, pas forcément le premier samedi, mais j'enseigne aussi dans toute la France, hein, dans tous les KTT. Et... Ouais. Je ne suis pas le seul à enseigner, c'est heureusement. Alors évidemment, quand je vous dis ça comme ça, je vous explique les choses, je peux peut-être paraître un peu ferme, un peu. Certains verront en soi-même qu'est-ce qu'il est dogmatique, etc. Non. Tout est ouvert finalement. Si un jour on me prouve que la loi du karma n'existe pas, eh bien j'adhérerai totalement, mais il faut qu'on me le prouve, comme disait le Dalai Lama. C'est pareil, je suis prêt à changer mon point de vue, mais qu'on me prouve que j'ai tort réellement. Voilà, jusqu'ici ça s'est pas fait, donc je crois toujours fermement à ce que j'ai expérimenté, et c'est pour ça que je le dis peut-être des fois avec cœur, avec engouement, mais c'est parce que j'y crois. Voilà. Encore des questions ? Catherine.
Oui, Yama, je voudrais savoir la différence entre la compassion et l'attitude compatissante. Parce que parfois, on parle qu'on a de la compassion et ça n'en est pas vraiment.
Ouais, ça peut être qu'un simulacre, bien souvent, mais c'est parce que notre motivation n'est pas pure. On n'arrive pas à être compassionné, et comme le lama a dit qu'il fallait être compassionné, on va se forcer à être compassionné. Mais il n'y a pas la sagesse derrière, on ne le vit pas vraiment, la compassion. C'est encore qu'une machination de l'esprit. La compassion, c'est quelque chose qui jaillit du cœur et qui ne passe pas par l'intellect. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Et pour apprendre ça, il faut pratiquer. Il faut toucher son cœur. Il faut y aller dans ce cœur, le pénétrer, ce cœur.
Pour atteindre la voie de l'éveil, faut-il prendre des engagements monastiques, ou en étant laïque, une personne peut accéder à l'éveil?
Pareil, l'un comme l'autre. Je crois qu'on a beaucoup d'occasions dans la vie quotidienne, dans nos activités, dans nos responsabilités, d'apprendre des qualités d'éveil. Une maman, par exemple, qui a des enfants élevés, qui a un mari à supporter, eh bien, elle apprend la patience, elle apprend la générosité, elle apprend plein de choses. Et nous-mêmes, en tant qu'hommes, bah, c'est pareil, on a plein de choses à apprendre. Et c'est dans notre vie quotidienne qu'on apprend. C'est grâce aux autres qu'on peut devenir généreux. Si on était tout seul dans l'univers, comment pourrions-nous apprendre la générosité ? On ne pourrait pas. Comment pourrions-nous apprendre la patience ? C'est grâce aux autres qu'on peut apprendre ces qualités-là. Donc merci les autres. Je vous aime les autres. Parce que si je deviens patient et généreux, c'est grâce à vous. Eh oui. Donc il n'y a pas besoin d'être moine forcément. C'est difficile d'être moine. Oh là là. Moine ou non. Très difficile.
Est-ce que Bouddha décrit un but? Est-ce que Bouddha décrit un but à l'homme? Enfin, je veux dire, vous parlez de s'élever spirituellement. D'être ensemble, de partager, qu'il n'y ait plus de souffrance. Enfin, moi, je pense qu'il faut bien avoir la conscience de la souffrance pour passer justement au-dessus.
Tout à fait.
Mais alors, s'il y a après, quoi.
Ben, allez-y.
Voilà, c'est ça, en fait.
Vous le verrez.
Parce que c'est une autre question que je...
Comment pourrait-on expliquer l'inexplicable ?
Il n'y a que la pratique.
Je vais vous donner un exemple. Je donne souvent cet exemple. Certains qui sont dans la salle l'ont déjà entendu maintes fois. Imaginez que vous veniez d'une terre, d'un pays, d'une planète, je ne sais pas, où le sucre n'existe pas. Vous allez venir me voir et me dire « Lama, expliquez-moi ce qu'est le goût du sucre. » Alors je vais utiliser des mots, des stratagèmes, je vais essayer de vous expliquer le goût du sucre. Ça peut durer des mois, des années. Puis vous allez me dire, là, moi, je suis insatisfait, je ne sais pas ce que c'est que le goût du sucre. Et vous me dites, je vais parcourir le monde, je vais aller sur tous les continents, peut-être que dans une autre langue, dans une autre civilisation, quelqu'un saura m'expliquer réellement ce que vous allez partir pendant un an, deux ans, cinq ans. Puis au bout de cinq ans, vous allez revenir me voir. Lama, j'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres, vu des centaines et des milliers de gens. J'aurais demandé ce qu'était le goût du sucre et je reviens vous voir parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que le goût du sucre. Alors je vais vous dire, écoutez, toutes les personnes essentielles que vous avez contactées, appelez-les, on va se réunir autour de cette table et on va vous expliquer ensemble ce que c'est que le goût du sucre. Vous allez le faire, on va être tous réunis là. Et dans une soucoupe, il y aura un morceau de sucre. On va vous dire, prends-le et mets-le dans ta bouche. Vous allez le faire et instantanément, vous saurez ce que c'est que le goût du sucre. Il n'y aura plus de différence entre nous. Est-ce que vous parlez entre vous du goût du sucre? Tout le monde s'en fout du goût du sucre, puisqu'on l'a tous goûté. Eh bien, l'éveil, c'est pareil. Goûtez-le. Deux Bouddhas, quand ils se rencontrent, ils parlent de tout sauf de bouddhéité. C'est ma réponse. Voilà. Encore une question, monsieur?
En dehors des cérémonies, combien d'heures pratiquez-vous par jour?
Normalement, c'est minimum, c'est deux heures. Mais là, vous parlez de la pratique assise, formelle. Si vous parlez de la pratique en général, c'est 24 heures sur 24. À l'état de veille, comme à l'état de sommeil, l'état de rêve ou d'endormissement, c'est pareil. On pratique tout le temps. Tout est sujet à la pratique. Et quand on est en retraite, par exemple, moi-même, je me retire en retraite tous les ans, un mois et demi à deux mois, en novembre et décembre, eh bien, là, je ne fais que pratiquer toute la journée, à la fois la méditation, les prières pour le bien des êtres, etc. Et là, je consacre mon temps uniquement à ça, je n'ai pas d'activité autre que ça pendant ces deux mois. Bien, bah écoutez, on va mettre un terme à cette journée. Mon souhait, c'est vraiment que ça vous soit utile. Bon, je ne vous dis pas, il faut à tout prix croire à ce que je vous ai dit, le but n'est pas là. Simplement, je vous ai donné un petit éclairage, un de plus. Vous pouvez toutefois, bien sûr, écouter d'autres enseignements ailleurs, lire des livres, etc. Et puis si là, surtout si cette voie vous intéresse, bah, de l'approfondir, pourquoi pas. Mais l'essentiel, quelle que soit la voie que vous choisissiez, c'est de vraiment essayer de comprendre et d'arrêter de croire que c'est toujours de la faute des autres, ce qui vous arrive. Et de regarder vraiment en vous-même, peut-être s'il n'y a pas quelque chose qui serait discutable en soi et qui serait peut-être à changer en soi-même. Et ça, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour faire ça. Quelle que soit la tradition à laquelle on appartient, ou même si on n'appartient à aucune tradition, on peut le faire. Et ça, c'est l'essentiel. C'est vraiment le fondement même de l'enseignement du Bouddha. Et puis pour finir, eh bien, je vais dédier à tous les êtres, je vais faire une petite prière en tibétain pour dédier les bienfaits de cet enseignement à tous les êtres, parce que comme nous ne sommes pas des êtres égoïstes, on va offrir ce moment. S'il y a eu un petit éclair de sagesse qui est passé, eh bien, on l'offre, on le garde pas pour nous. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois, si vous le voulez bien. Là, on parlera de la psychologie du cycle des existences.
Un petit instant, avant que vous ne vous dispersiez, quelques informations. La toute première, c'est qu'il a été mis, là, pendant l'enseignement, il a été mis sur le panneau, quelques informations pour les personnes qui ont posé des questions par rapport à la possibilité, éventuellement, d'avoir un groupe de méditation ou autre. Il y a quelques informations qui sont donc sur le panneau. Et il y a aussi une rencontre au niveau du village des premiers, enfin tout du moins une rencontre d'échange. Et je crois que la personne responsable va nous en donner plus d'explications. Je vais lui passer le micro. Et puis, avant de vous disperser, vous vous rappelez qu'il a été dit au début de l'enseignement qu'on pouvait aussi aller prendre un verre ensemble, prendre le thé, le café ensemble, pour, à l'extérieur, pour faire un moment convivial avant de nous séparer. Voilà.
Bonsoir, chers amis. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marc Puissin, je fais partie d'un groupe de méditation zen. Je suis l'enseignement de Thich Nhat Hanh, qui est un moine d'origine vietnamienne, qui vit dans le sud-ouest, près de Bordeaux. Et nous sommes un groupe de méditation qui pratiquons à la Charbonnière régulièrement. La Charbonnière, c'est sur Franche-Ville-le-Haut. Mais nous venons aussi, nous sommes en relation avec la pagode Tianming. Et jusqu'à l'incendie, nous pratiquions aussi la méditation ici. Et nous espérons reprendre aussi bientôt une séance de méditation avec les frères ici. Et nous organisons un week-end de retraite le 28 et 29 octobre. Les informations sont affichées là-bas. Et il y aura une conférence par des moines du village des Pruniers qui aura lieu le 27 octobre, qui aura lieu au grand séminaire, l'ancien séminaire Saint-Joseph ici, sur le thème « Paix en soi, paix dans le monde ». Voilà, merci.
Donc maintenant, l'enseignement est fini. Donc l'association bouddhique de la région et aussi tous les fidèles de la pagode Tianming vous remercie d'avoir participé à cet enseignement donné par le Lama Zenam Dorje sur le thème « Le karma et le libre arbitre » en vous souhaitant d'avoir compris et pour pouvoir le pratiquer dans votre quotidien. Et donc rendez-vous au prochain enseignement. Merci.
Bon, on va finir. C'est une chance de continuer à continuer. Parce que vous avez
Suzanne, je le petit papier bleu, je le fais mettre sur le
haut. On va mettre l'accent dessus.
Je le fais mettre
pour l'instant. Il faudrait
mais tu aurais pu le les gens auront un peu de peut-être si tu en as promis, si tu en as amené quelques-uns,
c'est bien. Comment commencer
Ça peut être dangereux.
Non, mais écoute, c'est pas très grave. Parce que vous